Vous écoutez
RMC.
RMC.
Pour le fan fort.
Vous savez, quand vous prenez des buts, vous les prenez pas sur la largeur. Hein.
Les acteurs, ce sont les joueurs, c'est eux après sur le terrain. Il y a besoin qu'il y ait une ébullition aussi en interne.
Je l'attendais. Et que ça vienne d'RMC, je n'en doutais pas.
Si je réussis, bah dans les bacs, tu auras mon single. Ah. En attendant, Gilbert, fais-moi plaisir, mets-moi dans le jingle.
Jusqu'à minuit 30, l'after foot. Intégral Euro.
Gilbert Bribois.
Bonsoir à tous, l'After continue jusqu'à minuit et demi sur RMC et sur la chaîne YouTube de l'After, After-Foot. Vous êtes en direct sur RMC, l'After, le premier podcast de France. Vous le savez, première radio de France également le soir entre 20h et minuit. Tout ça avec Daniel Riolo qui est là. Daniel, bonsoir.
Bonsoir les amis.
Et avec Florent Gautreau, salut Florent.
Salut à tous.
Je précise qu'après minuit et demi, il y aura la libre antenne, comme tous les soirs, jusqu'à 1h30. On va analyser le match Pays-Bas-Angleterre, parler également de l'actu du jour. Toute actu droit télé, aujourd'hui, on est à 39 jours de la reprise de la Ligue 1, toujours rien de signé. Mais tous les jours, il se passe un petit truc. Et puis l'OM, également au programme tout à l'heure, le feuilleton Greenwood continue, sans oublier l'équipe de France, les sondages du jour concernant Didier Deschamps. Plusieurs médias ont fait des sondages, des choses ont-ils resté. Et en général, ça se joue à 70% de non. Il doit partir. Bon, on en reparle tout à l'heure. 32-16 pour tous ces sujets. Direct Studio, notre messagerie sur les applis RMC, RMC Sport, bien sûr, pour nous écrire. Et puis nos spécialistes. Johan Crochet est là pour les Pays-Bas. Salut Johan.
Salut Gilbert, bonsoir à toutes et à tous.
Et Julien Laurent, c'est en finale. Incroyable.
Salut Gilbert, salut à tous.
Ah, pour lui, la bonne nouvelle, c'est qu'il va retourner à Berlin. Et qui dit Berlin, dit le Soho House. Il va retourner sur sa terrasse,
déjà,
son magnifique hôtel.
Déjà,
il est resté.
Oui, mais
grosse,
toi,
grosse fête.
Tout, alors que là, tu
dernier,
vas pouvoir aller
t'installer.
Là, tu vas pouvoir aller t'installer jusqu'au bout, là, maintenant. Là, tu bouges plus, quoi.
Ouais, ouais, alors, je suis déjà chez moi. Hein, je connais tout le monde. J'appelle tout le monde par leur prénom. Ils savent ce que je commande le matin. Enfin, tout.
Ça m'étonne pas.
L'Angleterre en finale, une première depuis 1966. Julien. À l'échelle de l'Angleterre, ça va être le feu là.
L'Euro 2020.
J'ai tellement.
Les premières finales,
tu les voyais déjà gagner.
Il est tellement proche.
Je pensais que tu disais, ils ont gagné l'Euro la première depuis 70. Je dis, putain, il y a une finale quand même avant. Non,
ils ont la possibilité de gagner pour la première fois depuis 66.
Non, c'est parce qu'en fait, c'est que le dernier Euro, ils étaient déjà en finale.
Ouais, tout à fait.
Ils l'avaient déjà gagné avant, soi-disant, mais il y avait l'Italie en face.
Ah oui, oui, c'est vrai qu'ils avaient gagné.
C'est pas te raccrocher aux branches, quoi, ce soir.
En 2021, ils avaient gagné avant de jouer. On s'en souvient.
Bon, Julien, très franchement, je pense qu'il faut que tu fasses un bon honorable quand même. Tu nous as tellement dit que c'était une équipe pourrie et qu'un sélectionneur nul. Là, comment expliques-tu qu'il soit en finale ?
Non, j'ai toujours dit que le sélectionneur était bidon. Mais l'équipe en elle-même, on sait très bien les talents qu'elle a. On connaît cette qualité individuelle. On en a parlé encore l'autre soir avec Flo notamment. Sur la qualité du groupe, le talent de ce groupe-là, il n'y a aucun doute là-dessus, il n'y a jamais eu de doute là-dessus. Quand tu as le meilleur buteur de la Bundesliga, le meilleur joueur de la Liga, le meilleur joueur de la Première Ligue parmi tes titulaires.
En termes d'individualité, c'est sans commune mesure avec le reste de l'Euro.
Ouais, ça c'est sûr. Je suis d'accord avec toi.
Si on anticipe déjà la finale, tu as une équipe, on l'a assez dit hier soir, on faisait le bilan, qui est une sorte de patchwork de joueurs de la Real Sociedad, de Bilbao, un mec du Real. Enfin bon, il y a zéro star, mais un collectif qui nous régale. Et on va avoir en face 11 joueurs qui jouent dans les plus grands clubs, qui sont des vedettes, des mecs qui jouent à City, au Bayern, comme
sur
tu l'as
la
dit, au Real.
Sur la partie plus offensive de l'équipe.
Ouais, mais...
Non, mais je veux dire...
Si tu mets John Stone...
T'as deux défenseurs de City, quand même.
Stone joue à Manchester City... Oui, mais bon... Il est tout, il fait toujours partie des meilleurs défenseurs.
Je suis d'accord sur les clubs.
Walker est peut-être en baisse, mais ça a longtemps été un des meilleurs arrière-droits en Europe. Je veux bien pinailler sur un ou deux postes. Mais Declan Rice, c'est le milieu d'Arsenal, un mec que tous les clubs voulaient, qui a été acheté quasiment 100 millions. À côté de lui, il y avait Alexander-Arnold, ils l'ont changé pour Manu, mais d'ailleurs, c'est une bonne chose, parce que ça va beaucoup mieux maintenant. Après Foden, Bellingham, Kane, Bukayo Saka, il n'y a pas d'équivalent dans cet Euro quoi, en termes d'individualité. Il y avait peut-être un peu l'Allemagne qui pouvait discuter, mais
on sait que ça ne fait pas forcément une équipe. C'est pour ça.
Mais ça, c'est le problème. Mais même encore ce soir,
l'assemblage pour l'instant à chaque fois nous décevait. Moi, ce soir, je l'ai trouvé beaucoup plus intéressant, mais on va en parler maintenant.
La première période, c'est leur meilleure 45 minutes de la.
Ah bah oui,
il y a aucun doute là-dessus.
Depuis longtemps.
Ça, c'est sûr. Ouais. Sauf que la seconde période, encore une fois, La seconde période, ça recule, ça subit, ça invite la pression adverse.
Oui, c'est vrai, personne ne joue vraiment, mais la vérité, finalement, c'est que ce 2-1, il est assez mérité. Par rapport, justement.
Flo, attends, juste avant que tu finisses sur le
club. Les Hollandais, deuxième mi-temps, ils ont aussi leur période, quand même.
Flo, ils ont zéro tir, les Anglais, entre la 45e, donc du début de la seconde période jusqu'à la 88e minute, la frappe de Palmer au-dessus, ils ont zéro tir.
Ouais, moi, je
ne parle pas de tir cadré, ils ont zéro tir.
Je suis d'accord, mais
dans la surface.
J'attendais tellement plus des Pays-Bas dans cette demi-finale que je trouve que pour une fois, alors qu'on les a bien défoncés depuis le début de l'Euro, par rapport à cette première période à laquelle je ne m'attendais pas qualitativement, je dirais même, des Anglais, j'ai envie de te dire que malgré tout c'est mérité parce que les Pays-Bas ils ont été trop décevants dans cette demi-finale. Et après, les Anglais ils savent faire un truc que nous on ne sait pas faire quand même, même s'ils n'en ont pas mis des tonnes, ils savent justement marquer avec les qualités offensives de leur fameuse vedette dont vous venez de parler. Quand Saka égalise contre la Suisse, quand Bellingham égalise sur son retour, quand là c'est le petit Watkins qui marque et tout, tu vois, c'est justement tout ce qu'on n'a pas eu nous dans les moments forts.
Oui, ça c'est vrai.
Watkins, c'est un joueur qui a été très peu utilisé dans ce tournoi, alors qu'il fait une saison incroyable en Première Ligue. Il est le seul à marquer plus de 20 buts et faire plus de 10 passes décisives en championnat.
Est-ce que c'est le Barcola anglais?
Ouais, un petit peu. Oui, t'as raison. C'est un peu ça. Il a préféré Tony, par exemple, à faire entrer Tony contre les Suisses.
Mais tu vois, il y a un truc, Julien, par rapport à Southgate, quand même, puisque tu l'as bien critiqué, et légitimement, on va pas refaire le monde à l'envers, on va refaire l'histoire Jacquet, la jurisprudence Jacquet, mais il sort Foden et Kane. Tu vois, rien que ça, par rapport à ce qu'on a vu du sélectionneur portugais,
c'est
de notre sélectionneur face à Mbappé, qui est certes sorti parce que lui l'a demandé, il sort Foden et Kane.
Alors
on dit
Kane. Koeman en face.
Ouais, ou de Koeman en face.
Foden qui en plus fait son meilleur match de l'Euro.
Oui, mais il a raison de les sortir. Et Kane, dit lui-même, moi j'ai du mal parce que je suis un peu cramé. Ok, mais néanmoins, il sort Foden, Kane, il fait rentrer Palmer, Watkins. Putain, mais c'est ce qu'on demande nous à Deschamps depuis punaise.
Il a fait Deschamps un petit peu tard.
Ouais.
J'ai trouvé un petit peu tard. Mais après, il combine les deux sur le but. Donc le pas de Palmer.
Ouais, puis c'est, symboliquement, c'est tellement fort. C'est tout ce que justement on a reproché aux sélectionneurs portugais, aux sélectionneurs français. Peut-être à Koeman, on va parler avec Johan. C'est rien que pour ça, je trouve qu'effectivement, même si c'est tard et tout, cette Angleterre-là mérite de passer, quoi.
Oui, bien sûr. Ce soir, il y a pas de discussion. Il y a eu quelques belles séquences néerlandaises. Je ne saurais pas les compter. Je saurais pas dire combien. Je pense que Johan, ça va continuer aux Pays-Bas de charcler dans tous les sens. Parce que
c'est
franchement, il y a un moment, ce bloc bas comme ça pour les Pays-Bas, c'est pas possible.
Non, parce que perdre contre l'Angleterre 2-1, but, peu importe le scénario, tu perds contre l'Angleterre, c'est tout à fait acceptable. Ils ont des meilleurs joueurs, ils ont tout ça est assez clair. Par contre, ce qui est assez peu accepté aux Pays-Bas, c'est de perdre en ayant donné l'impression qu'à aucun moment tu avais essayé de jouer. Et ça, pour un pays aussi marqué identitairement dans le jeu que le sont les Pays-Bas, ça devient tout de suite un petit peu plus compliqué quand la victoire n'est pas au bout. On peut refaire le débat de
la France.
Ce qu'ils ne font pas, ce qu'ils pourraient faire eux dans leur tradition de jeu, c'est exactement ce que fait l'Espagne.
Ah, totalement, oui, bien sûr.
Et ça, pour eux, c'est une grosse perte
surtout,
pour les Pays-Bas.
Et surtout, évidemment que tu joues pas pareil au milieu quand t'as Cope Miners et Frankie de Jong et que ça restera un truc de.
Il leur a manqué.
Dans les sports américains, on dit toujours les what if. Et s'ils avaient été là, peut-être qu'on aurait eu un autre milieu de terrain, une autre configuration.
C'est vrai qu'il leur a manqué deux joueurs qui vraiment.
Mais malgré tout, moi, je reste persuadé qu'avec les joueurs que tu as, tu es capable de jouer autrement et que la frilosité de l'entraîneur, il faudra faire très attention à ce qu'elles ne viennent pas contrecarrer l'éclosion de joueurs, et notamment toute une génération qui arrive et qui pointe le bout de son nez, qui est en capacité maintenant de répondre aux attentes à la fois en termes de résultats, parce que j'estime qu'il y a un groupe qui est suffisamment profond en quantité et aussi en qualité, avec des leaders de jeu qui doivent maintenant émerger, parce que Van Dijk commence à faire aussi un peu de son âge, mais les Frenkie de Jong doivent prendre le relais, des Nathan Ake doivent prendre le relais, des Tiani Reinders, première saison au très haut niveau avec l'AC Milan, doit aussi maintenant prendre le relais. Et finalement, c'est une très grosse déception, non pas de perdre, mais moi, je suis assez horrifié par la prestation de ce soir, où finalement, les Néerlandais ont été bons sur une phase de jeu, dans laquelle tu ne les attends pas forcément. Tous les coups de pied arrêtés sur le jeu aérien. Là, ils ont masterisé tous les Anglais sur tous les coups de pied arrêtés.
Bon, en deuxième mi-temps, ils ont le ballon, hein, quand même.
Il
n'y a pas de production.
C'est ça, voilà. C'est de la possession défensive.
Et parce que les Anglais, bizarrement, eux, une sorte de crainte, on a l'impression s'arrête de jouer alors qu'il l'avait fait en première période. Tu as raison sur les coups de pied arrêtés, c'est totalement l'inverse de ce qui se passait traditionnellement avec les Anglais. Et après sur ces Pays-Bas, ça me fait vraiment penser à la France sur cette idée, tu vois, de, on va dire, de ne pas être capable, toi, de produire du jeu.
C'est presque le fait que Depay se blesse, ça change
non, je pense pas. Non, je pense pas. Et surtout, tu disais la capacité de produire du jeu. Et il va y avoir aussi la capacité du sélectionneur national de se détacher de sa première ère en tant que sélectionneur national. Moi, le Wijnaldum, je veux plus le revoir en sélection. Depay titulaire, ça ne doit plus arriver, ça ne doit plus exister. Vous prenez
même De Vrij, De Vrij sur le but de Watkins, je suis désolé,
mais tu te rends compte que De Ligt ne joue pas de 7 euros et que Nathan Ake est mis à gauche, alors que tu pourrais avoir une charnière Ake Van Dijk, par exemple. Même si tu veux pas mettre De Ligt, qui peut avoir des limites, tout ce que tu veux.
Oui, même Van de Ven.
Même Van de Ven, exactement. T'as des solutions.
Pour Coman.
Non, ça sera pas chaud parce que il fait demi-finale, même discours que la France. Peu importe le jeu, il a fait demi-finale, il a dépassé les objectifs.
Tout ça aux Pays-Bas, que la culture était différente.
Non, mais parce que aussi il y a à l'inverse de la France où encore que je sais même pas si non même peut-être pas à l'inverse de la France. Ça, si il y a Zidane qui est prêt, mais aux Pays-Bas derrière Koeman.
Ah oui, il y a pas un gars qui pourrait s'imposer.
On va
tout
quand
suite.
Même pas rappeler la 20e fois Van Raal. C'est bon, on a donné. On va pas rappeler Advocate non plus. C'est bon, on a pas besoin du sergent et du shérif pour trouver autre chose. C'est un petit peu plus compliqué.
Je sais pas. Tu Peter peux pas Boss. Choper Peter Bosz du PSV.
Il est champion avec le PSV. Il va faire la Ligue des Champions. Il est dans un cycle en plus où l'Ajax va pas très bien. Le Feyenoord perd beaucoup de joueurs. Il a perdu son entraîneur.
Ce pays qui a été un puits de coachs.
Ils en ont des coachs. Ils sont dans les clubs aujourd'hui.
C'est terminé ça.
Mais ils sont dans les clubs aujourd'hui. Arne Slot est à Liverpool.
C'est ce qu'on disait tout à l'heure, les bons coachs sont dans les clubs. C'est vrai quand même quand tu regardes.
Bon, on va faire une évaluation tout à l'heure bien sûr. Julien, maintenant la question c'est comment est-ce que les Anglais vont perdre cette finale? Parce que Harry Kane,
c'est une très bonne question.
Parce que c'est l'Angleterre, tout ça.
Ouais, c'est vrai. Alors, tu disais tout à l'heure par rapport à 66 et à la finale de 2021, c'est la première finale en dehors d'Angleterre.
Je rappelle que 66, il y a un but fantôme quand même.
En plus, ouais, mais ces deux finales-là, 66 et 2021, elles sont à Wembley aussi. Donc il y aura ça à gérer. Juste pour finir, moi, encore une fois, on peut refaire le Sylvain Ripoll-Anglais tout ça, mais le caractère que cette équipe-là, que ces joueurs-là montrent, c'est quand même le troisième match de suite où ils sont menés, et c'est le troisième match de suite où ils marquent 94e, 80e contre la Suisse, 91e ou 92e ce soir, le but vainqueur. C'est assez incroyable. Alors je sais qu'il y a un penalty cadeau, quand même. Pour moi, c'est penalty cadeau.
Oui.
Mais bon, voilà, c'est penalty cadeau. Mais quand même, voilà, ils ont ce caractère.
Le pénalty
de qu'il y a péno.
Quand même.
Bah, pénalty VAR, parce que quand tu le vois au ralenti, ça accentue le truc et hop, tu mets pénalty.
Ouais, je suis d'accord.
Il rentre quand même le pied en avant, c'est pas un scandale qu'il y ait péno là-dessus.
Ah non, je dis pas que c'est un scandale,
S'il y aurait pas eu péno, c'est pas
un scandale. S'il y a un VAR, il y a les pénalties comme ça.
On en a parlé pendant le live. Moi, ce qui me gêne, c'est que il y a faute quand tu regardes avec le ralenti. Mais dans ce cas-là, le défenseur ne peut pas intervenir, ne peut rien faire et il doit laisser frapper l'attaquant. Parce qu'il ne met pas son pied pour les couper la jambe.
Roland ?
Mais comme je pense qu'il voyait l'Angleterre, tu vois ce que je veux dire, et
lui, il a dit péno.
Il est plutôt péno.
Non, mais t'as raison, parce que
ça l'arrangeait, quoi.
En fait, le joueur, quand il va frapper comme ça, il va donc reculer la jambe, amorcer son geste et ensuite la jambe va partir dans l'élan. Ça veut dire que sur une circonférence de 2 mètres, aucun défenseur ne peut faire quoi que ce soit.
Tu ne peux plus intervenir, tu laisses frapper. Après, je l'ai dit immédiatement.
Sacré pied en avant.
Bah non, le seul problème, c'est que Flo Germain qui commentait avait raison. Le seul truc, c'est le pied haut. C'est-à-dire qu'il intervient. Des fois, c'est souvent cette action la connaît au sol, tu sais, où tu vas contrer le pied qui vient de frapper. Là, c'est vrai qu'il a un pied assez haut. Donc, je dirais pas que c'est un penalty cadeau. Pour le coup, même moi qui suis pas fan de siffler ça,
non.
Je trouve que c'est un peu dur.
Généreux.
Mais enfin bon, mais sur l'histoire du match, ce qu'a montré effectivement l'Angleterre, comme on le disait, tu sais, qui réagit quand elle est menée. Bah là, dès qu'ils ont été menés, c'est là qu'ils ont déclenché leur meilleur moment de l'Euro, quoi.
Ouais, c'est sûr. Après, sur le papier, par rapport à la finale, il y a pas photo. Les Espagnols sont bien meilleurs collectivement. Individuellement, on peut regarder encore une fois, poste par poste, on peut faire ce dont Daniel parlait tout à l'heure. Je sais pas au final qui gagnera entre les ailiers espagnols. Enfin, voilà, on peut toujours voir ça. Foden, Saka ou Lamine, Nico, tu choisis selon ce que tu préfères. Mais sur le papier, voilà. Mais est-ce que cette défense à 5-4, un petit peu hybride, comme on l'a vu ce soir, peut poser des problèmes aux Espagnols? Je pense. Je pense que la clé se fera peut-être dans la densité physique d'un Rice et d'un Meinu contre un Rodri et un Fabian. Mais encore une fois, c'est deux jeunes joueurs anglais qui n'ont pas du tout l'expérience d'un Fabian. Alors Fabian, on peut en discuter, mais surtout Rodri. Donc je pense que ce sera vraiment, vraiment intéressant à suivre. Mais sur le papier, l'Espagne est favorite, c'est tout à fait logique.
Oui. C'est logique.
Dans un instant, avec nous Didier et Chazem qui sont supporters hollandais et anglais. Et puis ensuite l'évaluation, évidemment, l'équipe de France au programme également d'ici minuit 30. L'actu du jour, le mercato, tout ça avec vous au 32-16, bien sûr. À tout de suite dans l'after.
RMC, jusqu'à minuit 30. L'after foot, intégral euro.
Gilbert Bribois.
Il est 23h14, l'after continue jusqu'à minuit et demi. Ensuite, ce sera à la libre antenne, comme tous les soirs, durant 7 euros. Daniel Riolo est là, Florent Gautreau est là, Julien Laurence, Yohann Crochet. Et je vous rappelle que c'est le dernier soir pour tenter de gagner votre place dans l'expérience RMC. RMC vous emmène à la finale de l'euro. On connaît maintenant l'affiche. RMC vous offre le voyage, l'hôtel, les places de match pour deux. Tout ça, si vous êtes attentif et que vous écoutez bien l'alerte que vous connaissez maintenant. Quand vous entendez l'alerte, vous envoyez euro par SMS au 732-16. Vous aurez 5 minutes pour le faire. Restez vigilants, ça va tomber sans doute d'ici minuit 30. Didier est là, supporter anglais. Didier, bonsoir.
Bonsoir Gilbert, bonsoir Johan, bonsoir Florent, bonsoir Daniel.
Salut Didier, t'as déjà été avec nous depuis le début de l'euro là.
Oui, j'avais appelé il y a, je crois que c'était la semaine dernière. Ce soir, je suis très, très surpris, mais très content parce que... Quand on voit le début de la compétition des Anglais, on n'imagine même pas qu'ils iront, ne serait-ce qu'en demi-finale, mais là en finale. Ça, je ne sais pas.
Est-ce que même en les voyant mal jouer, quand vous les voyez mal jouer, vous vous êtes à chaque fois dit ils ne pourront pas aller en finale. Moi, j'ai jamais réussi à me dire ça.
Alors, qu'est-ce qui te fait dire ça? Parce que Julien parlait de confiance ou de caractère. Je ne sais plus quel mot tu as utilisé, Julien. Ouais, moi, je me demande.
Moi, à aucun moment, j'ai gommé certitude. La possibilité qu'ils iraient loin. Même moi,
je ne sais pas si c'est le caractère, Julien, ou si c'est juste la force individuelle des joueurs.
Bah oui.
Tu vois, parce qu'à un bout d'un moment, le talent ressort, même au milieu d'un marasme ou un ballon qui traîne.
Et les équipes qu'ils ont croisées n'étaient pas des équipes qui, fondamentalement, pouvaient les empêcher. Enfin, je veux dire, pouvaient et ne pouvaient pas. Ok, ouais, c'était possible que les Suisses, qui avaient montré de belles choses, les sortent, et ça ne s'est joué qu'au péno. Ouais. Pourquoi pas? Mais en même temps, de là à enterrer les Anglais, non. À aucun moment, moi, je les ai complètement enterrés. On pouvait les critiquer, on pouvait dire ils jouent pas bien, il y a pas de problème.
Je pense que c'est la valeur de l'effectif qui nous fait dire fin de.
Mais absolument, mais c'est rien d'autre. Ouais. Mais quand tu sais que t'as autant de force sur le terrain, tu te dis, à moins de tomber sur une équipe, je sais pas si dans le tableau il y avait eu l'Allemagne et tout, je dis ouais, franchement, là, ça m'étonne, je pense pas qu'ils vont y aller, quoi, tu vois. Mais vu les équipes qu'il y avait à jouer, je les ai jamais complètement enterrés, quoi.
Mais là, cette finale, Daniel, c'est la première fois.
Julien et puis Didier, je te redonne la parole ensuite.
Juste avant que Didier intervienne, ce sera la première fois la finale où ils seront pas favoris finalement. Puisque dans tous les matchs qu'ils ont joué jusqu'à présent, c'était la meilleure équipe. Alors même quand ils jouaient pas bien, on disait bon, ils sont nuls, ils jouent pas bien, collectivement c'est catastrophique, c'est un chaos absolu, c'est le bordel. Mais ils ont cette force individuelle incroyable parce que, et à chaque fois on rappelait les joueurs. Et à chaque fois on les a quand même mis légèrement favoris contre les Suisses. Favori contre la Slovaquie, légèrement favori ce soir contre les Néerlandais. Là, dimanche, ce sera la première fois, comme tu l'as dit tout à l'heure, où vu qu'ils étaient dans la partie de tableau la plus facile des deux, c'est la première fois ils vont se retrouver dans le rôle d'outsider.
Moi, je pense que c'était comme
et
surtout
je sais pas
ça,
si ça leur convient ou si ça leur convient pas.
Ah, moi, je pense que ça leur convient complètement, parce que je pense que quand ils étaient favoris et qu'ils n'avaient pas les épaules pour assumer ce statut, ils sont toujours passés par des situations rocambolesques, complexes, y compris contre la Slovaquie, parce qu'ils avaient, à mon avis, moi je ne les voyais pas aller au bout. Je suis beaucoup plus clair, parce que oui, certes, le talent individuel, mais jusqu'à à un certain moment dans cet euro, les équipes qui ont mérité, entre guillemets, sont passées. Et après, elles sont passées à la trappe à un moment donné. Non, la vérité...
Est-ce que tu as le sentiment qu'ils ont braqué un match à un moment?
Je pense que la Suisse est supérieure, mais bon...
La Slovaquie.
Non mais après
la Slovaquie est supérieure, franchement c'est nul, la physionomie. À un moment les Anglais ils ont le ballon, ils poussent mal, c'est pas génial ce qu'ils font, mais à un moment j'ai l'impression qu'ils ont volé un match.
Moi j'estime que c'est presque du vol pour une raison simple, comme l'a dit Julien, la partie de tableau. Il se trouve qu'ils sont dans cette partie de tableau et qu'ils s'en sortent face à des équipes pas géniales, mais parce qu'ils ont quand même le talent individuel, et ils s'en sortent plusieurs fois de suite comme ça. Il n'y a que ce soir où je trouve que,
moi, ils méritent et que les Pays-Bas m'ont déçu. Et finalement, ils ont fait honneur, on va dire, à leurs individualités et au niveau qu'on leur prêtait avant le début de l'Euro. Sinon, non, moi, je ne les voyais pas aller au bout. J'ai eu beau regarder tout ce que je voulais. À aucun moment, je pouvais penser qu'ils allaient passer.
Quand ils font 0-0 contre la Slovénie au premier tour, là.
Ouais, non, ils n'ont pas été bons. Après, bon,
ah,
ben
mais
voilà.
Je n'ai jamais dit qu'ils étaient bons, mais malgré tout, je n'ai jamais enterré. Quoi. Il y avait beaucoup de choses qui allaient en leur faveur.
Non, moi,
l'effectif.
Moi, je mets un tournant dans le mental, dans le fait que cette équipe, c'est
le Bellingham. Bellingham.
Ouais. Ouais, le retourné de Bellingham. Moi, dans cet Euro, d'ailleurs, c'est une des images qui me restera. C'est que
c'est un peu l'illustration. Nous, on peut un peu tout faire.
Est-ce que nous, à la France, on a attendu un peu ce miracle, parce que pareil, c'était pas bon, mais on s'est dit, est-ce qu'on va avoir droit à ça? On n'y a pas eu droit à ce moment de grâce. Dans ce sens qu'on disait hier, on ne retiendra rien.
Vainement pendant tout l'Euro, c'est le but de Mbappé.
Voilà un but.
C'est ce que t'as attendu.
Un truc de dingue.
Voilà, exactement.
C'est ça, c'est ça.
Ou même un truc d'un héros. Ou un truc d'un héros inventé. Un Pavard contre l'Argentine. Un truc fou, un Barcola qui met son truc et on en fait toute une histoire. On n'a pas eu ça. Nous, ça restera totalement la tristesse, la surlie totale. L'Angleterre, au moins, ils se sont éclatés sur ces fins de match. Ils ont un truc, plein d'histoires à raconter. Et les Anglais, eux, à la fin, même s'ils perdent, parce que c'est quand même leur tradition, donc normalement ils vont perdre. Les Anglais vont retenir des images de cet Euro. Parce que quand tu as des fins de match comme ça, tu vas retenir quand même des choses de cet Euro.
Didier, à toi.
Oui, mais je suis d'accord avec ce que Florent disait. Je pense que le point de bascule vient lors du match contre la Slovaquie. Parce qu'avant, les Anglais avaient une faiblesse mentale incroyable. On disait la peur dans le regard des joueurs. Et Bellingham, au-delà de son talent intrinsèque extraordinaire, je pense qu'il apporte une certaine arrogance, une certaine confiance.
C'est vrai ce que tu dis. C'est vrai.
Ouais. Tu sais ce qu'il apporte? Il apporte ce que le Real a. Ce truc, on va gagner, c'est pas fini, on est capable de renverser le match. Ses coéquipiers le savent. Aujourd'hui, il a pas été bon.
C'est ça, c'est une forme
Il a pas été bon, mais.
C'est un mélange de confiance en soi, une pointe d'arrogance, parfois même un peu de suffisance chez lui.
Faut être anglais, quoi, en fait. Je résume.
Un vrai anglais.
C'est ça, un vrai anglais.
Un bon anglais.
Bon. Je sais pas,
est-ce qu'ils ont dit good game aux Hollandais à la fin?
Je sais pas. Et Didier, merci beaucoup. Bon rendez-vous en finale.
Merci à vous. Merci à vous. Et c'est super ce que vous faites. Continuez. Et je vous écoute tous les soirs. Enfin, je vous regarde plutôt sur YouTube tous les soirs. Et bonne continuation à vous.
Ça marche, merci. Didier. Bon, on s'appelle. À très bientôt. Raconte tout ce qui va se passer dans les heures qui viennent en Angleterre, et parce qu'il y a des rapports conflictuels entre consultants et sélection. C'est chaud. Kane a répondu plusieurs fois aux consultants. Southgate, il avait des potes avant dans le foot anglais. On a l'impression que maintenant il est tout seul. À ton avis, toi qui connais bien le contexte, comment ça va se passer?
Alors, je pense que des Gary Lineker, des Gary Neville vont prier, vont aller, je sais pas moi, à la cathédrale de Berlin pour prier pour qu'ils perdent le match dimanche soir. Forcément, on a vu d'ailleurs, ils ont montré sur ITV la chaîne anglaise qui passait le match ce soir.
Ils sont tellement engagés contre Southgate et l'équipe.
Ouais, ils ont tellement été critiques qu'à un moment, je pense qu'ils ont préféré que ça marche pas.
Personnellement, je ne comprends pas ce genre de truc parce que, alors pour le coup, l'engagement ici, on est habitué, mais jamais de la vie, ça m'est arrivé de souhaiter
non, mais
la défaite parce que j'avais dit quelque chose. En 2018, j'arrêtais pas de critiquer le jeu de l'équipe de France. Bon, ils ont gagné. Bah alors quoi, on assume derrière. J'ai beau ne pas aimer le style.
Non, mais je plaisantais.
Ils ont gagné.
Mais non, je plaisantais, mais c'est vrai que c'est...
Il faut pas se cacher après, quoi, tu vois.
Oui, non, bien sûr, non. C'était plus de la plaisanterie qu'autre chose, mais c'est vrai que cet environnement-là maintenant est un peu particulier parce que je pense que Southgate s'en est servi, enfin les joueurs surtout s'en sont servis dans le sens où bon ben voilà, les anciens joueurs, eux, ne croient pas en nous, etc. À nous de faire notre truc tout seul, ce qu'on a un peu raconté depuis tout à l'heure. Et donc maintenant, dans les analyses, même si je pense qu'il y aura un petit peu de scepticisme, on va dire, parce que l'Espagne est si forte et parce que l'Espagne elle a gagné ses 6 matchs et que voilà, donc il y a forcément ce côté-là un petit peu où ils vont pas arriver pour la finale dimanche en disant ça va être gênant, on va leur mettre 3 buts, on va gagner 3-0, il y aura pas de ça. Mais je pense qu'ils ont cette foi, ce qui est vrai, hein, ce caractère dont on parlait tout à l'heure, ou caractère mêlé à cette brillance individuelle et cette foi aussi en eux que finalement il peut rien leur arriver, quoi. Donc même s'ils prennent un but tôt, même s'ils sont menés au score à la pause par exemple, ils savent très bien qu'à un moment sur un coup de quelqu'un tout seul, comme on l'a vu encore avec Watkins ce soir, et ben ça peut, ils peuvent revenir, ça peut passer. Mais c'est vrai que les 4 jours là qui vont arriver vont être assez passionnants pour voir les réactions un peu de tous ceux qui ont été très critiques par rapport notamment à ça.
Après, il gagne l'euro, imagine il gagne l'euro, je sais pas si pour autant je changerais, mais j'en suis même convaincu, je vais pas changer d'avis sur les qualités de coach de Southgate, hein.
Ah non, mais on est tous d'accord.
Et on pourra me mettre son bilan, deuxième finale de suite, le quart contre la France perdu pour un rien. Oui, pour moi, ce sont les joueurs qui font, quoi. C'est pour moi, Southgate, c'est Domenech 2006, hein. Lui aussi va en finale, et pourtant, ça a pas fait de lui un grand coach, hein.
C'est vrai.
Avant de te quitter, Julien, Harry Kane, faut que tu nous en parles de son match, de ce qu'il a fait, pas fait ce soir.
Ouais. Ouais, alors parce que bon, il marque le penalty, d'accord, il est à 3 buts maintenant, il est en tête, ils sont 3 ou 4 3 buts. Mais dans la performance globale, on va dire, individuellement, c'est encore trop insuffisant. Mais de toute façon, il a vraiment pas l'air à 100%. On l'a dit plusieurs fois. Le fait qu'il soit remplacé avant la fin de la rencontre, ce qui n'arrivait jamais avant. Je pense que Southgate sait qu'il est pas à 100%, qu'il peut plus. On a vu qu'il a beaucoup de problèmes dans le pressing. Par exemple, le but de Watkins. Cet appel-là, comme ça, dans le dos de la défense, en diagonale, dans le demi-espace droit, Kane ne le fait jamais. Kane ne peut plus, enfin, ce soir-là, en tout cas, il ne fait plus cet appel-là. Encore moins à la 91e minute, ça fait déjà 90 minutes qu'il est sur le terrain. Et donc, à un moment, ça devient un problème. Et je pense que, pour revenir à ta question, Gilbert, tout à l'heure, dans les 4 jours qui vont arriver, le débat principal sera qu'est-ce qu'on fait avec Kane? Est-ce qu'on débute, on fait débuter Kane? Rappelez-vous, quand il débute la finale de Ligue des Champions avec Tottenham.
À aucun moment, il démarrera pas la finale, hein.
Bah oui.
Oui, mais le débat va avoir lieu.
Ronaldo anglais, il sera là.
Oui, non, mais c'est ça. Ou le Kylian Mbappé ou Antoine Griezmann d'hier.
À la différence prix qu'il est sorti par son coach et que ça fait la différence, là, ce soir.
C'est vrai.
Et que Watkins entre en jeu et fait la diff, quoi.
Ce que je veux te dire, c'est là, on prenait des comparaisons qui ne tiennent pas, parce que si le Portugal a perdu, c'est en partie parce que le sélectionneur n'a pas changé Ronaldo. Nous, parce qu'on a tout misé sur Mbappé qui n'a pas été bon et ce coup-ci. Alors que c'est vrai que le banc anglais recèle pas mal de pépites quand même.
Ouais, quand même, oui.
Ah, c'est sûr, c'est sûr.
Palmer Watkins, c'est quand même, c'est chaud.
Bon, Julien, je pense qu'on refera un point demain soir, hein, évidemment.
Avec
donc,
plaisir.
On te retrouve demain en direct de Berlin.
La soirée ne fait que commencer pour lui. Voilà. autour de la piscine du Sceau à Berlin. Il fait bon, la température est bonne?
Ouais, mais là, il pleut un peu. Il y a des averses souvent à Berlin.
Ça va plomber la soirée
très beau, après,
sur le rooftop, ça.
Voilà, ça a rafraîchi
un peu.
On parlait
de la température du jacuzzi, Julien.
Oui, mais après, on remonte. Mais Daniel, vendredi soir, je t'attends. Il y a grosse soirée. Vendredi soir. Donc.
Salut Julien, bonne soirée.
Ciao.
Ah, voilà notre alerte. Vous envoyez donc euro par SMS au 732-16 si vous voulez participer au tirage au sort pour aller à la finale de Berlin dimanche entre l'Espagne et l'Angleterre. Vous avez 5 minutes pour envoyer euro par SMS au 732-16. Dans un instant, Chazem avec nous, supporters hollandais, et on fera une évaluation ensemble. Johan, oui, reste avec nous. Chazem.
Ah, c'est pas celui qui dit.
C'est pas lui qui dit musique, ce que tu écoutes comme musique. Il y a une lettre de différence. Allez, à tout de suite dans l'after.
RMC jusqu'à 18h30. L'after foot intégral euro.
Gilbert Bribois.
Il est 23h30, l'after est là jusqu'à 12h30, ensuite ce sera la libre antenne. Daniel Riolo est là, Florent Gautreau est là, Johan Crochet est là également. Vous savez qu'on a eu les sondages radio de fin de saison aujourd'hui?
Oui.
Donc je voulais tous vous dire bravo et merci.
Merci à vous qui nous suivez tout le temps, puisque c'est quand même grâce
à vous, Johan, Florent, Daniel. L'After est première radio de France sur la saison 2023-2024. Voilà. Et premier podcast de France aussi. C'est un peu ça. Mais sans l'aide des arbitres. Bon, allez, parlons des Pays-Bas.
Parce que comme les grandes équipes, il y a une forme d'autogestion après, au bout d'un moment. On connaît les circuits de passe, en tout cas.
Ah bah oui, on les connaît. Chazem est là, supporter hollandais, bonsoir.
Salut les mecs. Salut.
Toi, t'es énervé après Coman, je crois.
On va te passer un morceau.
Je vais vous dire.
On va te passer un morceau, on va voir si tu le reconnais en deux secondes.
En tant que hollandais, mais je suis dans une rage intense contre Coman. Faut qu'il arrête d'être Jiffy des idées de génie comme Luis Enrique. Comment on peut mettre Memphis en pointe ce soir? Après tous ces matchs qu'il a fait pourris depuis le début de l'Euro, il a rien montré depuis le début. Dès le match contre la Pologne, moi perso, je voyais direct en le regardant que ça allait pas du tout dans ce poste, que c'était pas du tout sa place, qu'il aurait plutôt dû être soit en numéro 10, soit au mieux peut-être sur un côté, mais pas en buteur. Ce soir, combien de ballons Memphis perd? J'ai rarement vu ça.
Mais tu sais, Chazem, c'est marrant ce que tu dis, parce que finalement, on s'aperçoit que dans beaucoup de sélections, il y a eu le même problème. C'est-à-dire oui, le mec un peu vedette qu'on n'a pas voulu sortir. Ronaldo pour le Portugal, Mbappé pour la France.
Chazem, là, il sort à 28
Il est blessé ce soir.
Il est blessé, donc en fait, tu veux lui reprocher. Il y a une heure sans Depay.
Non, mais lui, il dit carrément qu'il ne doit pas jouer parce que c'est vrai qu'il est mauvais à tous les matchs. Mais le gars, un petit peu qui a le totem et qui joue tout le temps, on a eu ça dans plein de clubs.
Moi, c'est vraiment à Koeman que j'en veux. Parce que Memphis, bon, il a fait que respecter les consignes de Koeman, dont la tactique était complètement catastrophique. Comment, quand Memphis est blessé, que tu as l'occasion de faire entrer le vrai buteur, Weiros, d'ailleurs vous remarquerez qu'à la seconde où Weiros il était en jeu, tu deviens 10 fois plus menaçant, il pèse sur les défenses, il presse les défenseurs, tu peux faire des corners, tu peux faire des centres, enfin tu as bien plus de possibilités et tu es bien plus dangereux, à la seconde où Weiros y rentre, comme par hasard. Sauf que ce Koeman en carton, au moment où Memphis il sort, enfin du moins qu'il est blessé, et qu'il a l'occasion de faire entrer Weiros enfin, il nous met Wiermann. Alors, choix que je comprends vraiment pas du tout, mais bon, comme d'autres choix depuis le début, à chaque fois, en fait, on a l'impression qu'il attend que ça se passe mal avec Memphis à chaque match pour faire entrer Weiros et se rendre compte, ah ben, j'ai fait une bêtise, je me suis encore pris pour je sais pas qui, mais j'ai encore fait une bêtise. Et malheureusement, en tant qu'Hollandais, du coup, évidemment, cette défaite me brise le cœur parce qu'on avait la possibilité d'avoir une revanche de rêve du mondial perdu de 2010 contre l'Espagne.
Et oui.
C'était l'occasion rêvée en plus. On avait une chance incroyable depuis le début, tout nous réussissait. Mais ce Koeman, s'il a voulu être têtu, il a voulu faire les choses à sa manière. Depuis le début, il s'est pas remis en question. À chaque fois, il te met Memphis en pointe.
Il y a que sur Memphis que tu lui fais des reproches.
On n'a pas vu une seule seconde le gars de Bologne, Zirkzee. Hein. Ça, je suis très étonné qu'on l'ait pas vu.
Oui, moi, la grosse frustration, aussi, je suis très déçu de ça.
La grosse frustration, Chazem, c'est même pas, à la limite, si ça en fait partie, mais d'avoir Depay titulaire, mais c'est que Zirkzee, qui est pour moi l'évolution naturelle et bien meilleure d'un Depay en faux numéro 9, a joué, je sais pas, 10 minutes dans le match, enfin, dans tout l'Euro, a joué 10 minutes, quoi.
Parce qu'il est rentré quoi?
Il est rentré lors du dernier match contre la Turquie, et là, il est rentré ce soir 4 minutes, quoi. Donc c'est ça pour moi la grosse frustration, c'est que t'as un mec qui marche sur l'eau, qui fait une énorme saison à Bologne, et finalement, c'est le seul joueur de Bologne que tu ne fais pas jouer à l'Euro, les Suisses les ont fait jouer, d'autres nations les ont fait jouer, l'Italie fait jouer Calafiori, ils sont tous bons, et le meilleur joueur de Bologne de la saison, qui joue aux Pays-Bas, bah lui, il n'a pas le droit de jouer.
Il était dans la liste.
Parce que Koeman s'appuie encore, pense qu'il est encore en 2020-2021.
Il était dans la liste des fameux mecs, quand tu regardais l'Euro, tu voyais un bon joueur, tu disais, mais où est-ce qu'il joue lui? Parce qu'à Bologne.
Bah exactement.
et l'autre remarque qu'on avait pendant le live, et moi qui me sidère un peu par rapport à ces coachs, et quelque part qui se sont fait aussi un peu manger le cerveau, pas un petit peu d'ailleurs par le foot de club par moment, c'est ces neuf qu'on fait entrer uniquement en joueur d'impact, mais qu'on ne tente jamais en titulaire, Füllkrug, Weghorst, qui effectivement, dès qu'il est entré, Weghorst, et oui, sur les remises, sur les pivots.
T'as failli rajouter Colomoigny, là? Pourquoi?
Non, je pense qu'il n'y a pas pensé.
Ah non, moi le vrai neuf, non mais le vrai neuf qui n'est pas en forme en France, non mais le vrai neuf qu'on a c'est Giroud, nous, mais bon là il n'est pas en forme, c'est très bien, mais en tout cas il y a eu
un profil Giroud, hein.
Oui, mais là en plus lui il est en forme, donc effectivement je comprends que quand t'es supporter, si t'as tu vois à la limite pour l'Allemagne avec son Havertz, c'est un petit, il y a débat, même
oui,
si
mais il y avait le débat Füllkrug, pareil,
oui,
les gens voulaient voir Füllkrug.
Et je pense que les coachs n'osent pas aller jusqu'à cette titularisation, tu vois, du neuf qui a ce profil en plus qui peut te servir et qui a montré sur effectivement ses occasions.
Je trouve que cette mode est complètement dépassée et les faits montrent que c'est une mode qui est dépassée, mais il y en a qui s'entêtent. Je vois pas ce qu'apporte ce qu'ont apporté dans le jeu Havertz, Memphis, avec les décrochages du faux neuf, là, pardon, mais ça m'a pas convaincu, moi.
Chazem, un truc à rajouter?
Oui, mais j'aimerais rajouter, c'est pas uniquement le choix Memphis, hein. Pour moi, par exemple, faire rentrer souvent Wijnaldum en cours de match, ça servait à rien.
Il a été
inexistant. Évidemment, pour moi, le plus grave, c'est évidemment d'avoir laissé Memphis et de pas forcément le sortir du 11, hein. Simplement le mettre à un autre endroit sur le terrain, favoriser d'autres.
Est-ce qu'il n'y a pas seulement les choix, là je parle sous le contrôle de Johan, enfin c'est Johan qui va nous dire, dans ce que fait Koeman, dans la façon dont tu, entre guillemets, c'est pas des coachs de club, mais tu fais progresser ou tu fais évoluer tes joueurs. On en parlait avec Simon sur le pendant le match. Moi ce qui me gêne, c'est que ce joueur-là du talent, la preuve, il a mis ce but, il est là, mais on le disait, le positionnement, son positionnement trop sur le côté quand il peut être intérieur, il décroche, enfin, au sens psychologiquement, on le voit pas pendant un moment, il est off pendant certains moments dans le match. Est-ce que là, t'as pas, quand t'as un coach sur le dos qui te parle de ça, qui t'explique ces choses-là, est-ce que t'as pas un moyen, même en sélection, de progresser, de faire autre chose au sein d'une compétition, enfin, pendant une compétition comme celle-là?
Bah, après, il suffisait de faire les bons choix, comme parfois il y a eu le, bah, par exemple, vous vous rappelez de la deuxième mi-temps contre la Turquie, à partir du moment où Weghorst il rentre chez nous et les Pays-Bas, et que Memphis il passe sur un côté, et que Simmons il est replacé en 10, ça se passait bien mieux. Hein.
Ouais, mais
donc pourquoi il a fallu en gros dès le début ça?
Ça va même au-delà de notre ami attaquant de 2 mètres. Pour moi, ça devrait pas être la solution des Pays-Bas. Pour moi, il y a eu trop de manquements dans le jeu et dans les options prises effectivement par Koeman, et pas simplement en termes de joueurs, comme tu l'as dit, Flo, même si pour moi c'est quand même une partie très très importante de la réflexion, mais aussi sur l'attitude que tu as demandé à tes joueurs d'adopter au début des matchs, en cours de match. Finalement, comme beaucoup de sélections, ça a été des matchs à réaction. T'attendais d'être un peu en difficulté contre la Turquie pour ensuite réagir. T'attendais d'être en difficulté contre l'Autriche pour réagir. Contre la Pologne,
Ils ont démarré.
La Pologne, ils démarrent bien
L'idée de s'imposer.
Exactement.
Je suis pas d'accord qu'il est. Je dirais que c'est quasiment un match sur deux. En fait, c'est en fonction de l'adversaire.
Ouais, mais après,
dès que l'adversaire avait un nom, il commençait à se faire.
Oui, mais voilà, c'est ça. Après, moi, je veux bien que aucune sélection n'est maintenant une petite sélection pour lesquelles on doit avoir une espèce de mépris ou quoi. Mais si les Pays-Bas deviennent l'équipe qui ne joue que contre la Pologne et la Roumanie, ça va me poser un problème. Moi, j'attends ça, mais j'attends aussi autre chose contre des adversaires de valeur. Et ça, je sais pas si Koeman aura la volonté de faire évoluer un petit peu sa pensée, parce qu'il va rester. Et surtout, là où ça me fait un peu peur, c'est qu'il y a des joueurs qui connaissent d'autres systèmes dans des clubs européens beaucoup plus évolués en termes de mentalité. Et il faudrait, en sélection, avoir ce type de coach, sauf si Koeman est capable de s'adapter, pour accompagner aussi cette progression dans la sélection nationale.
On ne voit pas une équipe des Pays-Bas qui, on va dire, qui joue un peu dans la tradition Pays-Bas. Parce que même 2010, non, quand ils vont en finale,
même 2014
ils sont pas tellement dedans. Moi, je me demande s'il faut pas redescendre à l'Euro 2000, où ils sont à domicile, et là ça.
L'Euro 2000, il y a une très belle équipe. 90,
ça,
2000,
ça joue bien. Il y a un vrai beau football. Mais sinon, limite, peut-être un peu 2008.
L'Euro 2008, la phase de groupe est plutôt positive.
Ouais.
Mais là, ça, après,
ça envoie
c'est
vraiment beaucoup de jeux. Il y a les fameux ailiers. Si, il n'y a plus les fameux ailiers hollandais, là. Les Overmars, les mecs qui partaient, qui foutaient le feu en permanence à provoquer.
Robin. Mais tu vois, c'est là où c'est un peu faible, parce que tu adoptes ce style de jeu-là avec des individualités très fortes, tu le comprends, tu te dis, bah oui, quand tu as des individualités très fortes, sois dominant aussi dans le jeu, etc. Ce qu'on voit aujourd'hui dans le foot, c'est que quand tu n'as pas ces individualités-là, t'es obligé de répondre par une équipe, un collectif qui doit avoir une mentalité. C'est l'histoire de l'Atalanta, c'est l'histoire du Bologne cette année. Moi, je reprends évidemment les exemples italiens, mais on peut aller chercher même un club comme Fribourg. A pas de star, mais quand Fribourg se met à jouer, il joue d'une certaine manière. Le Leverkusen de Xabi Alonso, on peut le prendre dans tous les sens. Il n'y a aucune star dans cet effectif-là. Donc, évidemment que tu peux pas être l'Angleterre et penser qu'une individualité va te faire tout l'euro et te sortir à chaque fois d'un match piège et va te permettre d'avancer au fur et à mesure. Bah, à ce moment-là, travaille sur un collectif qui sera plus fort et qui te permettra d'avoir des certitudes et des schémas bien pris. Bah,
Robin, les gars, attendez, j'aimerais qu'on conclue avec.
Depuis qu'il anime l'after, Robin.
Exactement.
Du coup, le niveau a baissé. C'est un radar footballistique.
Shazam, on va voir si t'es meilleur en vrai qu'en appli. Est-ce que t'es capable de reconnaître ça?
Oh, les champions!
Après, désolé Gilbert, mais j'avais quand même encore un petit truc à dire. Allez, sur le mandat et l'état d'esprit. Après, moi je suis hollandais, moi.
Et alors
moi, ça me
bon,
parle
je t'en mets un autre, Shazam, voir si t'es meilleur en vrai qu'en appli. Avec Daniel, c'est facile ça. Oh.
Allez, on retente un truc, allez.
Une autre, une dernière, allez, c'est parti.
I will survive.
Ah bien, bravo.
Eh oui, mais bon, ça ne concerne pas ça. Exactement, les gars.
Sur la conclure. Il y a tout qui sort, il y a le titre.
Attends, un dernier, mais normalement, c'est spécial Hollande.
Non, t'as celui-là, celui-là. Attention, un dernier spécial Hollande. Est-ce qu'il est prêt?
Ah, on met
un blind test pour Shazam là.
Attends, attends.
Ah, ça c'est 40 ans que je connais les livres.
Bravo! On a réussi, ça a été dur. Hein, oui. Ça a été compliqué, on a réussi. Ah.
Merci de me redonner le sourire, les gars. Merci de me redonner le sourire. Mais justement, j'aimerais juste conclure en disant que ce qui me donnait quand même plus d'espoir et de confiance cette année, c'est que contrairement à l'Euro 2021, vous vous rappelez, on s'était fait sortir les Pays-Bas de manière ridicule par la République tchèque. Bon, l'Argentine, c'était moins ridicule il y a 2 ans contre le Qatar, mais bon, c'était pas non plus glorieux. Là, cette année, j'avais l'impression que le mental et l'état d'esprit était bien meilleur, qu'on avait quand même commencé à développer une âme dans cette équipe, qu'il y avait plus une culture de la gagne par rapport à avant, en allant chercher des victoires, en retournant les situations, ce qui n'arrivait jamais, enfin du moins pendant longtemps, ça n'arrivait plus, surtout avec cette génération de joueurs. Et je me dis, n'est-ce pas ça la clé pour que ces prochaines années, pour les Pays-Bas, pour éventuellement enfin ne plus avoir cette image de loser à chaque fois et enfin gagner des titres? Enfin, notamment le championnat du monde, enfin la Coupe du Monde, ce serait, n'est-ce pas, la clé de développer ce mental et cet état d'esprit encore plus tous ces prochaines années et de vraiment devenir des winners, quoi, des vrais winners qui se battent jusqu'au bout et qui et arrêter avec cette étiquette de loser tout le temps.
Et dans la série des joueurs aussi qu'on n'a pas vu où c'est Frimpong.
Évidemment, meilleur en appliquant
sorti Frimpong dans la série
des joueurs. Tous les joueurs qui ont pris en club, on les a pas tellement vus. Mickey Van de Ven qui est bon à Tottenham, on l'a quasiment pas vu.
Concluons avec une mini évaluation quand même. Il y a des joueurs donc qu'on n'a pas cités là. Qu'est-ce que vous pensez du match de Jude Bellingham, les gars? C'est intéressant parce que
pas un bon match.
Pas un bon match. Oui, décevant. Finalement, on retient quoi de Tournero à part l'Euro?
Mais pour l'instant, il n'y a pas que ça. Il a mis le premier but du premier match aussi.
L'instant, il est décevant. C'est un retour de Foden qui fait.
Moi, je le trouve toujours important en fait dans l'équipe. Dans cette espèce de concert de désordre qui tourne qu'autour des individualités, t'as l'impression que malgré tout, il prend le ballon, il est là, il essaie d'orienter. Je le trouve positif.
Et d'ailleurs,
à défaut d'être excellent, je le trouve toujours positif.
D'ailleurs, il le sort pas parce que sur le niveau de jeu, tu dis à un moment donné, il va sortir parce que je pense que physiquement, il est au niveau. Alors que les deux autres, si Foden sort, c'est aussi parce qu'il commence à disparaître un peu du match, même si effectivement, il a fait sa meilleure mi-temps là dans la première. Kane, on l'a dit, physiquement, c'est plus court, il sort alors qu'il sortait pas avant. Je pense que c'est quand même le genre de joueur. Puisqu'on parle, moi ça m'intéresse pas trop, mais puisqu'on a parlé de Mbappé et des autres pour le Ballon d'Or, tout le monde se dit que si Bellingham fait une grande finale, ça fera partie de là pour le coup. Il y a un moment très important
Ligue
pour l'obtention du Ballon d'Or.
S'il gagne l'Euro, oui, je pense.
Mais pour revenir juste un dernier point sur la façon de jouer et d'être, qui est intéressant de dire que selon l'adversaire, on a vu les Pays-Bas sur courant alternatif. Finalement, et c'est pour ça qu'elle mériterait d'emporter l'Euro. Évidemment, seule l'Espagne ne s'est jamais départi de son idée de jeu. Oui. Toutes les autres nations ont fait une sorte de globi-boulia en fonction de l'adversaire. On a changé, on a eu peur, on joue pas. Là, on joue parce que c'est la Pologne. C'est ça la réalité. Donc hier, on en a parlé, même si on a pas
toujours été un peu le cas. T'as rarement des équipes qui arrivent et qui jouent tout le temps.
Non, mais il y a l'Espagne.
Souvent, tu t'adaptes.
Ouais, mais à noter quand même que t'as une équipe qui n'est pas effectivement la plus grande Espagne qu'on ait connue. Tu l'as dit, on a analysé la sélection hier. En revanche, dans l'idée, dans la culture, dans la façon de faire, on vient, on joue comme d'habitude.
Il faut pas exclure que les Anglais fassent une grande finale justement face à cette équipe-là.
Bien sûr, ça va les arranger.
Xavi Simons, comment tu juges son match? On a été assez critique depuis le début de l'Euro. Là, il met un but magnifique, mais par ailleurs.
Ouais, mais après, c'est
pareil.
Il est
bizarre son but. Hein.
Il faudra un contexte pour qu'il soit performant. Là, ils ont passé l'essentiel du match à défendre à 20 mètres de leur but. Après, ils ont beaucoup allongé. Les rares fois où il s'est déplacé, il n'a pas été énormément servi. Autant, il y a des matchs où, oui, il y a toujours des ballons jetés un peu trop facilement, je trouve, où il devrait savoir le conserver, faire des feintes de corps, revenir simplement en arrière, le lâcher plus simplement. Évidemment qu'il y a tout ça, mais ça, c'est un jeune joueur, il va l'apprendre. Il ne fait pas tant de saisons que ça qu'il joue et qu'il joue au haut niveau. Mais ce soir, c'est vraiment pas le joueur sur qui... Mais de toute façon, j'ai pas envie de taper sur des joueurs ce soir. Pour moi, c'est le système et le choix de joueur est plus défaillant que les joueurs en eux-mêmes. Mais je voulais juste expliquer ce que vient de dire notre ami Raphaël van der Vaart.
Ah,
jamais la langue dans sa poche, évidemment. Qui explique si je regarde notre Euro de manière générale, dans la globalité et critique, je pense que dans 10 ans, on ne se retournera pas en pensant qu'on a mis le football néerlandais sur la carte du football européen pendant cet Euro. Il explique aussi que, en général, je pense que c'est une grande déception et l'arbitre est un drame. Mais est-ce que notre jeu n'était pas aussi un drame pendant cet Euro? Et il enchaîne par, papapam, le temps que je le retrouve. Une place en finale aurait été fantastique, mais on ne le méritait pas sur la base du jeu qu'on a montré pendant l'Euro.
Merci Johan.
Merci à vous messieurs.
Bonne soirée. Dans un instant, l'équipe de France. Deschamps au programme, Mbappé au programme, également avant le reste de l'actu du jour. Deschamps qui a été donc officiellement maintenu aujourd'hui. On en parle dans quelques instants, on débat dans quelques instants avec vous tous au 32-16. À tout de suite en after.
RMC jusqu'à minuit 30. L'after foot, intégral euro.
Gilbert Bribois.
Il est 23h48, Daniel Riolo est là, Florent Gautreau est là, Yoann Crochet est resté alors qu'on avait dit au revoir, mais en vrai t'es chez toi, hein. Tu peux, si tu veux participer, t'es le bienvenu évidemment. La Libre Antenne tout à l'heure à minuit et demi, mais pour l'instant on va parler de Deschamps, parce que depuis hier évidemment, le débat lancé par l'after concernant la suite, hier soir dès la fin du match, a fait des petits, quelques sondages dans des médias d'influence, l'équipe même en a fait un aujourd'hui, Deschamps doit-il rester?
Ah oui.
À plus de 70% la réponse était non.
L'équipe, ils devraient faire un sondage. Est-ce qu'on a bien fait de soutenir Vincent Labrune pendant toutes ces années?
Ah, ils l'ont pas fait encore celui-là.
Bah, ils devraient se le faire pour eux-mêmes, tiens. Mmh. Parce que là, eux,
tout à l'heure,
une bonne responsabilité dans le marasme aussi à soutenir tout le temps les gens en place. Je sais, ça n'a rien à voir, mais j'ai envie de le dire.
Très bien. Dans Rotten sans flamme tout à l'heure, Jérôme Rotten, Christophe Dugarry.
On pourrait dire la même chose du
Emmanuel Petit,
du soutien Gérard Lopez à Bordeaux. Ils font souvent des bons choix. Je sais, ça a encore moins rien à voir, mais j'ai envie de le dire aussi.
Donc, je reprends. Tout à l'heure, dans Rotten sans flamme, Jérôme Rotten, Manu Petit et Christophe Dugarry ont donné leur avis sur Deschamps.
Vu que Manu Petit a commencé à venir dans notre maison et a envie de manger avec nous maintenant.
Bah, écoutez ce qu'ils disent tous sur Deschamps, c'est assez unanime.
Didier est forcément responsable de ce qui s'est passé, du fiasco sur le terrain. Ça fait mal de voir une équipe qui manque de maîtrise comme ça, qui a autant de déchets techniques. Quand tu perds, tu dois assumer. Et j'ai l'impression qu'il a du mal à assumer, qu'il s'est braqué tout au long de la compétition et ça lui ressemble pas forcément. Tu vois, d'être très attaché aux critiques un peu plus que d'habitude. Il balance sur les joueurs, il s'est mis des joueurs cadres à dos et le dernier échec, c'est sa construction du groupe. Quand tu prends ces joueurs-là, tu sais à quoi t'attendre. Quand tu manques autant de technicité dans le milieu de terrain, de créativité dans le milieu de terrain, c'est toi qui as construit ce groupe-là.
Je t'avouerai que même moi aujourd'hui, je prends la plupart du temps quasiment pas de plaisir à regarder l'équipe de France. Et Dieu sait si je suis un passionné et je suis à fond derrière l'équipe de France. Et aujourd'hui, ça m'ennuie vraiment de plus en plus parce que ça ne fait que se répéter. Donc les principaux responsables, c'est lui en premier lieu. Quoi.
Un jeu défensif qui a éclaté comme un pop-corn face à la seule équipe de cet Euro qui attaque plus de 3 fois par mi-temps. Notre prestation défensive d'hier. Me fait justement douter. Même ça me fait douter de savoir si on a une grande défense ou pas, parce que pour la première fois, on joue une équipe qui attaque et on a explosé. Le bilan de 7 euros, 2 victoires en 6 matchs, 4 buts marqués, dont un pénalty, 2 CSC, 3 buts encaissés, un jeu indigeste, est terriblement ennuyeux. Puis des joueurs, tout de moins une bonne moitié de ceux qui ont joué pas à leur niveau physique et technique. Et vous me demandez si cet échec est celui de Deschamps? Bien évidemment que oui. C'est lui qui les a sélectionnés, c'est lui qui les a préparés, c'est lui qui les a titularisés, c'est lui qui les a remplacés, c'est lui qui les a fait jouer le magnifique football que l'on a vu pendant 3 semaines. Il est plus que responsable, bien évidemment, puisqu'il a aussi, en plus de sa casquette de sélectionneur, celle de président de la Fédé et patron du football français. Il va être difficile de se défiler de ses responsabilités quand on a autant de casquettes que l'on s'est soi-même mis sur la tête.
C'était un récital du Gary qui m'a régalé tout à l'heure. J'étais dans la bagnole. C'était un plaisir. Je rentrais d'un tournoi de tennis.
Très bien.
Ça n'a rien à voir, mais j'ai envie de le dire.
C'est pareil. Je rentrais et tu as perdu, bien sûr.
Non, c'est gagné.
Tu as gagné un match.
Pardon ?
Tu as gagné un match.
Ouais, je t'as
dit un tournoi de tennis.
Ouais, je rejoue demain. Bah, c'est bien que les tournois, c'est.
Non, c'est pour ça. Non, mais je
demain 14h.
Journalistiquement,
si tu veux venir, tu peux venir. Viens
non,
demain.
Non, je peux pas parce que moi, je suis moi-même engagé sur d'autres.
Mais récital.
J'ai entendu Dugarry en venant du golf.
Dugarry qui m'a bien régalé, effectivement, où il avait parfaitement raison. En fait, ce qui était le plus intéressant, même si j'ai évidemment adoré ce qu'a dit Christophe, mais comme je suis tellement d'accord avec lui, j'avais plus envie d'entendre les autres. Et les autres, bah, c'est d'abord Manu. On a souvent eu ce débat.
Manu, dès hier soir, il l'a dit qu'il fallait changer.
Bien sûr. Manu, il prend le parti d'accepter le pragmatisme jusqu'à la victoire. Sauf que quand ça se termine comme ça, un monde s'écroule. Et finalement, sa déception et ses propos étaient presque très durs par rapport à ce qu'il avait dit avant. parce qu'il espérait tellement malgré tout. Et Manu est passionné quand il commente les matchs. Il était à fond derrière les Bleus, on le sait. Et en fait, bah, quand tu ne veux miser que sur le résultat en te disant ça va finir par passer, machin, c'est tout un monde qui s'écroule et tout s'est écroulé. Et je l'ai trouvé très dur. Il y avait dans cette discussion également Eric, parce qu'ils avaient un plateau somptueux tout à l'heure chez Jérôme. Jérôme, pareil, Eric, je suis absolument d'accord avec lui, donc je relève pas ce qu'il a dit. Eric, j'ai pas trop compris son point de vue, parce qu'il disait, moi j'aime quand
Eric,
on est joueurs...
lui, il met le curseur autant sur les joueurs que sur Deschamps, oui, si j'ai tout suivi. Hein.
Ok, mais j'ai compris ça, sauf que c'est pas du football de club. Deschamps, il a un choix énorme de joueurs qu'il peut sélectionner. Il a le temps d'observer un petit peu tous les joueurs français qui évoluent un peu partout en Europe, et visiblement même dans le monde, puisqu'il est allé jusqu'en Arabie Saoudite. Et à partir de là, il peut réfléchir au jeu qu'il a envie de faire pratiquer à l'équipe, mettre les joueurs en fonction d'eux. Quand il met des joueurs, éventuellement les sortir, la responsabilité du coach, elle est entière. Il ne peut pas, l'année, je me souviens quand il commentait le foot anglais, se réjouir du travail de Guardiola ou d'un autre coach et tout, et dire, évidemment que les joueurs doivent être mis face à leurs responsabilités, là-dessus, il a raison. Évidemment qu'on va pas faire l'économie des critiques sur Mbappé, mais on peut également dire que bah, peut-être que Deschamps, à un moment, il aurait dû ouvrir les yeux, et on l'a dit mille fois dans cet Euro, et peut-être considérer que Mbappé ne devait pas jouer ou sortir plus tôt. Il l'a fait avec Griezmann. Enfin, le sélectionneur, comme son nom l'indique, c'est lui qui choisit les mecs et surtout qui demande à son équipe de jouer d'une certaine façon. Et là, indéniablement, la responsabilité, elle est entière pour Deschamps. Et elle est entière, c'est encore plus parce que ça fait 12 ans. Et en 12 ans, t'as le temps de modifier, de donner un style, de marquer l'équipe que tu diriges d'une empreinte, de quelque chose dont on va se souvenir. Là, lui, il n'aura fait que marteler pendant 12 ans le résultat, le résultat, le résultat, le résultat. Bah, le résultat, ok, il y a un titre de champion du monde. Bravo Didier, c'est fantastique. C'était génial. C'était, je rappelle quand même que c'est quand même combien d'équipes ont gagné une Coupe du Monde en récoltant au passage, en parallèle, en même temps, le surnom de Chatar. C'est quand même fou! Même ça, quoi, j'aimerais dire, quand je dis qu'il souffre au fond de lui-même, qu'il a cette cicatrice de manque de reconnaissance, il a gagné la Coupe du Monde 2018 et on n'a pas arrêté de parler de la chatte à Dédé. Tout le monde, c'est devenu dans le langage commun, son surnom, la chatte à Dédé, le machin, le truc. Même lui avait fini par en rigoler. Sur Twitter, il y a le gif machin avec la chatte dans les mains. Tu vois, même ça, on a du mal. On se dit, ah bah 2018, ça s'est quand même super bien passé. Hein. Bon, à l'arrivée, il ne veut que le résultat. Bon, ben le résultat, tu prends Coupe du Monde, l'Euro, machin. Bon, ben t'as perdu en fait. Donc comme t'as perdu, ben faut partir maintenant. Parce que ça fait 12 ans, parce qu'on t'a assez vu, parce que la façon que t'as eu de te comporter dans cet Euro, la façon que t'as eu de parler, que t'as eu de parler dans les conférences de presse, même aux journalistes étrangers. Non, tu peux pas dire ça. Tu peux pas terminer un Euro en disant tu changes de chaîne si t'es pas content et tout. On a l'impression, enfin, franchement, qui part en vacances avec Allegri de la Juve, ils vont se foutre sous un parasol à deux, et puis rien qu'à se parler, ils vont tellement s'ennuyer, ils vont se noyer, toi, s'ils vont se baigner tous les deux ensemble, tellement ils sont, c'est pas possible. Quoi. C'est des croque-morts. C'est des croque-morts. Il pue le non-foot. Il faut passer à autre chose. Ça suffit maintenant, Deschamps. On peut plus. 12 ans, c'est énorme. 12 ans, c'est trop. Les Français veulent plus. Les Français veulent plus te voir.
Bon, alors, malgré tout, Daniel.
Les supporters en ont marre.
Là, c'est long, là.
Ouais, on peut dire un mot ou...
Bien sûr. Malgré tout, je précise quand même que donc, Philippe Diallo, aujourd'hui, a dit.
Mais Philippe Diallo, c'est important.
Il est président de la Fédé.
Mais il n'est pas président de la Fédé. Il est président par intérim.
Bah, il est président quand même.
Bah, non, mais
c'est pas lui qui décide.
Mais il devrait pas. Il devrait pas décider. C'est un intérimaire.
Bah, écoute.
Quoi, si demain, on met un intérimaire à ta place, est-ce que t'es malade? Il va décider de quoi, l'intérimaire?
Oui, mais l'intérim, il dure sur l'intérim, ça fait quand même presque un an là.
Et l'intérimaire, c'est donc, parce qu'on a viré Le Graët. Et lui, il était le numéro 2 de Le Graët, il nous a fait croire qu'il était au courant de rien. Il a couvert, qu'est-ce qu'il fait en fait? Alors qu'est-ce qu'il fait? Il est dans le bureau, il fait rien, il se tourne les pouces.
Bah, aujourd'hui, il a dit Deschamps va poursuivre sa mission.
Mais pourquoi en fait?
Bah, pour être sélectionné.
Mais il devrait même pas avoir ce droit là.
Alors attends, c'est pas fini. Il a dit hier soir, il a fait un discours aux joueurs.
Les joueurs, il y en a la moitié, ça ne même pas qui c'est.
Alors, il leur a dit, je voudrais d'abord vous dire qu'il ne faut pas banaliser le fait d'être en demi-finale, dit-il. C'est une grande performance. 20 équipes sont rentrées à la maison avant nous, dit Diallo, qui a dit, vous avez fait honneur au maillot. Voilà. Flo, là-dessus,
bah, à toi. Moi, ce qui me semble plus important, parce que tout le reste, on l'a déjà dit mille fois, donc j'ai écouté, du gars, très bien, bon, voilà, des champs dehors, on est tous d'accord. Mais ce qui me gêne, c'est que la défaite sportive se double d'une défaite politique. C'est-à-dire que ce qui compte maintenant, c'est la Fédé. Parce que la Fédé, avoir dégagé le Graët, ça aurait dû être un tournant politique pour notre football. Si il y avait eu un successeur digne de ce nom. Donc Diallo n'est pas le successeur digne de ce nom, on le sait, puisque ce n'est qu'un intérimaire. Mais qui derrière? Qui derrière?
Bah, vous savez que... bah lui, parce que pour l'instant, il n'y a que lui qui est candidat.
Diallo, mais qui derrière après? Deschamps. Parce que le truc écrit, c'est qu'en plus Deschamps, après avoir été sélectionneur, va vouloir devenir président de la Fédé. Donc moi, pour moi, maintenant, il faut passer à une autre étape.
Tu crois?
De dire, non mais, enfin, oui, il est, un jour ou l'autre, quand il ne sera plus sélectionneur, c'est quelqu'un dont on parle.
Tu sais ce que c'est le problème?
Ouais.
C'est que ça va mal finir.
Non mais attends,
s'il reste en 2026, ça va mal se passer. Et finalement, après tout ce qu'il a fait, ça va mal finir. Il laissera un mauvais souvenir.
Donc le, pour moi, le truc sur le jeu, on est tous d'accord. Là, les 70% de gens qui votent contre lui, les gens qui se rendent compte un peu tard parfois parce qu'ils espèrent quand même que ça gagne, ils sont pas dans cette analyse-là. Et à qui on dit de quoi tu vas te souvenir dans cet euro? Bah de rien, parce qu'il y a aucun bon moment dont tu peux te souvenir. Donc ok, sur le côté sportif, on est d'accord. Mais pour moi, le vrai problème, c'est que dans la journée, dans toute entreprise normale et dans toute bonne fédération, même si c'est du pipeau d'ailleurs, tu rencontres ton sélectionneur quand t'es président, tu fais un débriefing de ce qui s'est passé, de bien et de mal, parce que comme l'a dit Jérôme Rotten tout à l'heure, ce qu'il faut souligner, ce qu'on a dit quand même en creux dans les émissions, souci dans la gestion de Giroud par Deschamps, dans n'importe quelle boîte, après un échec, parce que c'est un échec, pas forcément effectivement en termes d'objectif, mais en termes de jeu, dans n'importe quelle boîte, tu dis attends, à ton sélectionneur, qu'est-ce qui s'est passé? Puisqu'on me dit que voilà comment ça s'est passé avec Griezmann. Griezmann dit je me sentais de mieux en mieux, je me suis retrouvé sur le banc. C'est ça qu'il a dit Griezmann. Donc il y a un souci avec Griezmann. Il y a eu un souci aussi dans la gestion de Giroud, même si Giroud n'était pas dans la forme de sa vie. Il y a un souci effectivement dans la façon dont tu fais tes changements tardifs. Il y a plein de raisons techniques de dire, en tant que patron de la Fédé, donc du foot français, de faire ce débriefing là. Évidemment il n'a pas lieu parce qu'on a raté la révolution politique du départ de Le Graët. C'était une occasion énorme et immense, puisqu'il en a réussi à le foutre dehors, d'avoir un changement. Aujourd'hui, on est mal représenté à la Ligue, on le voit pour les droits télé, mal représenté à la Fédé, mais c'est ça le point important, parce que les débats sur Deschamps et le jeu, c'est mort. Il a son contrat, Diallo l'a confirmé, on a Deschamps. Donc maintenant, en gros, c'est le pouvoir, c'est la Fédé pour avoir autre chose dans le foot français, parce que sinon, le type de jeu, le type de discours, même les joueurs, ils sont biberonnés à ça, certains. Même les gars qui sont sélectionnés, ceux qui sont sélectionnés, qui ont la place de ceux qui l'ont pas, eux, ils veulent rester dans la place, et donc ils te disent, on était costaud, on a fait demi-finale, on a fait machin. Il n'y a que ceux qui vont disparaître, comme Giroud, qui à mon avis va sortir du bois dans quelques temps en interview. C'est Griezmann, qui peut-être un jour aussi sortira du bois. Mais c'est comme ça. La vérité, c'est que le seul plan de Deschamps, c'était on bétonne et tout pour Kiki. Et le seul plan de Diallo et Le Graët, c'est Deschamps, sélectionneur, point barre.
Sauf qu'il y avait une porte.
Moi, je pense qu'on a raté la révolution politique qu'on aurait pu avoir après le départ de Le Graët, et c'est mort.
Il y avait une ouverture, c'est qu'avec le départ de Le Graët, il y avait le moyen pour Diallo, si c'était un vrai président, de dire... Oui, mais la prolongation de contrat, elle a été faite de façon anormale.
D'ailleurs, ils ont refait une réunion. Et on espérait peut-être qu'ils allaient remettre en cause le contrat. Et ils ont dit, bon, d'accord.
Une ouverture, Diallo.
Deschamps les embourbait en disant, oui, c'est vrai qu'on l'a peut-être fait machin, mes trucs, bidule. Oui, ok, bon, d'accord.
Diallo, s'il avait envie de montrer que c'était un vrai président, et c'est pas juste un intérimaire placé là et arrivé par hasard comme l'invité surprise d'un mariage ou je ne sais où, c'est juste.
Il pouvait renverser la table.
C'était de dire, ok. L'euro est passé, la prolongation de Deschamps s'est faite sur un coin de table, c'est pas normal la façon dont ça s'est fait. Deschamps c'est bien, merci, on va prendre Zidane. Et là, non seulement Diallo est tranquillement élu président de la Fédé, et il va pas, parce que là il va être élu uniquement parce qu'il y a personne face à lui. C'est ça le grand drame du football.
C'est ça le drame.
Mais là il aurait
qui pourrait là se présenter
parce qu'on s'est dit tiens, un mec qui a de la personnalité, un mec qui va prendre une vraie décision. Là on aurait été content de suivre Diallo. Or là, on suit un pantin.
Mais là
on
peut-être
est-ce
que l'opportunité ce serait pas que maintenant on lance dans l'after et ailleurs l'idée qu'il y ait quelqu'un enfin j'entendais Manu Petit qui a eu ce courage là à un moment donné d'aller un peu lutter pour le foot amateur dans les instances.
Ça va être compliqué.
Non mais par ailleurs, je veux dire quelqu'un qui a envie, qui a les épaules, qui a de l'expérience, qui se mettent en face de Diallo, parce que c'est une bonne raison de se mettre en face.
La liste n'est pas longue.
Pour que sportivement, tu puisses dire...
L'élection, elle est à la fin de l'année.
Décembre.
Et que tu n'auras pas le temps d'aller rincer tous les patrons de ligue qui vont voter.
Alors, il y en a un qui est dans la place, c'est Aulas. Il est libre.
C'est Aulas. Et la carte Zidane, elle est quand même majeure. Bon, celui qui vient avec
on continue le débat, les gars. On se pose et on revient.
De ballon dans les ligues.
Le 32-16 est ouvert et puis on parlera de Mbappé également et du désamour autour de lui. À tout de suite.
RMC jusqu'à minuit 30. L'After Foot Intégral Euro.
Gilbert Bribois.
Il est minuit 5, la libre antenne dans 25 minutes maintenant. Pour l'instant, Daniel Riello, Florent Gautreau sont là. On va continuer le débat autour de Didier Deschamps. Je vous rappelle juste que vous pouvez, en parallèle de l'after, aller sur afterfoot.media sur votre ordinateur. Ça vous permettra de constater qu'il y a toujours des tarifs extraordinaires pour s'abonner à la revue de l'after. Moins de 5 euros par mois, c'est donné. Moins de 4 euros par mois même. La nouvelle revue qui sortira dans quelques jours, fin juillet. Sur Direct Studio, on nous dit, Bruno nous dit, le pire est arrivé, Dédé va rester. Une victoire sur 6 tournois majeurs et 12 ans de galère. Il y a quand même un truc qu'il faut qu'on voit. L'objectif initial, en fait, à chaque fois, on dit, les présidents de Fédé disent demi-finale. Mais en fait, quand t'es la France, l'objectif, ça doit être gagné, non?
Non, même pas, même pas. Moi, je parlerai même pas de l'objectif.
Pas d'objectif.
Chiffré, je parlerai du jeu. Je parlerai de ce que tu laisses. À un moment donné, on a dit, tu vois, je vais te prendre un exemple qui n'a rien à voir. Nice. Ils sont fixés des objectifs, ils ont dit Ligue des Champions, les trois premiers, on veut concurrencer le PSG avec Ineos. Puis après, ils sont revenus avec un truc, on dit, bah, en fait, attendez, on efface tout, ça va pas, on n'a pas le budget, on n'a pas l'idée. On va faire du beau jeu, on va prendre un coach, on va essayer, on va faire du jeu et on va essayer de remplir le stade. Je pense que l'équipe de France aujourd'hui...
Ils n'ont pas réussi par ailleurs, enfin...
Aujourd'hui, non mais peu importe, c'était un exemple pour dire oui. qu'il faut mettre l'église au centre du village et te dire, qu'est-ce que tu veux? Tu veux une grande équipe de France, une belle équipe de France? Oui, on a gagné. On a gagné 98, on a gagné 2018. C'est bon, il n'y a plus on va dire, la malédiction. On a gagné. Mais maintenant, est-ce que les gens sont amoureux de cette équipe? L'histoire de la télé et des audiences. Mais à chaque fois, tu feras 16 millions, 17 millions, 14 millions. C'est pas
là,
l'audience.
T'as fait beaucoup moins.
Oui, en plus, t'as fait moins, mais tu fais quand même des audiences énormes parce que moi, j'ai entendu les gens qui disaient ce soir quand même, on va peut-être le faire si Mbappé se réveille. Donc les gens regardent. Donc ça, c'est pas un critère. En revanche, aujourd'hui, les gens peuvent plus des conférences de Deschamps. Les gens peuvent plus l'entendre. Il leur sort par les trous, les trous de nez, j'allais dire un gros mot. Et t'en peux plus de lui. Dans les confs de presse, il t'écoute pas. Il se fout de ta gueule. Il dit justement, ça vous plaît pas. Vous changez de chaîne. Ça y est, maintenant,
moi,
il est peinard.
Un autre coach là, qui
il
fait ça, mais ça te gêne moins.
Il est en mode parrain. Non, c'est différent parce que lui propose quelque chose sur le terrain. Bah ouais, t'as vu quand même autre chose.
Oui. Je vais pas contredire qu'il propose un peu plus.
Daniel.
Là,
bah ouais. Bah oui. C'est important.
Oui, bien
c'est
sûr.
Important.
Bien sûr.
Et est-ce que ce coach-là, est-ce que tu crois qu'il aurait géré là, qu'il aurait eu un cas comme Griezmann sur les bras? Moi, je crois pas. Je crois pas. Écoute Fabien Ruiz, qui a été sorti de l'équipe nationale par Luis Enrique. Écoute-le parler de Luis Enrique qui dit oui, il n'y a pas de souci, j'ai aucun souci, il m'a récupéré.
C'est pas comparable.
Donc, moi, je pense que les gens en ont marre de Deschamps. D'abord, comme dit Daniel, parce que c'est trop long. Parce que il devrait presque y avoir une limite dans le temps. Deuxième, il aurait dû suivre jusqu'au bout son mentor qui est Aimé Jacquet et partir très vite après avoir gagné.
En 2018.
Ouais. Sur une victoire, exactement.
Même De Gaulle n'est pas resté si longtemps. Donc,
Il y a que Mitterrand qui reste un peu plus longtemps.
Ouais, justement,
Daniel, il veut envoyer Deschamps à Baden-Baden.
Ouais, bah c'est clair. Ouais. Mais si tu veux, l'histoire, c'est que si tu vois là où je parlais politique tout à l'heure sur la Fédé, là où tu vois, on parle de la déconnexion de nos politiques en général, la déconnexion des politiques de la Fédé, c'est que s'ils allaient vraiment sur les terrains partout où on est allé pendant cet Euro, ils auraient entendu les gens d'abord se font chier. Les gens pendant le match,
pendant
les matchs qu'on regardait, tu sais, il faut quand même se le dire entre nous. Regardez les matchs et il y avait des mômes à un moment donné dans certains des matchs des Bleus qui commençaient à se barrer, à aller faire des actions entre eux parce que tu avais le temps, tu te faisais chier. C'était ça la réalité de cet Euro. Et donc aujourd'hui, si t'es président de Fédé ou même cadre à la Fédé, que tu vas sur les terrains et que t'entends ça, on n'en peut plus de Deschamps, ce style de jeu, ce machin. Tu fais rentrer un attaquant en lui disant attention, toi, ce qui est important, c'est le marquage du milieu de terrain. Toi, ce qui est important, c'est de courir.
Tu les as vu les images sur Bein? Tu sais où il sous-titre ce que Deschamps dit pendant les matchs. C'est tout le temps de la surveillance. On a l'impression le gars il travaille, c'est viré sûr quoi. Tu vois, il est là, il dit oublie pas, prends-le un contre un, fais comme ça, le laisse pas partir. C'est 1-1. Il donne que des éléments de défense en fait. Ça n'est que ça tout le temps.
Romain est là au 32-16. Salut
on
Romain.
On veut tourner la page.
Oui, bonsoir à tous. Merci de m'accueillir.
Salut Romain. Salut Romain, t'es le bienvenu.
Bah écoutez, moi je suis un peu d'accord avec ce que j'entends.
On a du mal à trouver des gens qui veulent défendre Deschamps ce soir, à vrai dire.
On n'en trouvera plus maintenant.
Pour être très honnête, Deschamps c'est quelqu'un que j'ai toujours apprécié. Il n'y a pas de souci là-dessus. C'est quelqu'un qui a toujours fait, entre guillemets, du bon travail pour gagner ou autre. Il n'y a pas de souci. Par contre, aujourd'hui, clairement, comme vous dites, on s'ennuie. Et surtout, ce qu'ils ont oublié, et c'est beaucoup de gens qui sont dans le football à l'heure actuelle, c'est qu'ils ont oublié qu'avant tout, c'est un spectacle. Et qu'actuellement, on est très, très loin du spectacle. Et je voulais faire le parallèle, justement, par rapport à la Ligue 1. On ne trouve pas de diffuseur, mais parce que peut-être que le problème, il est un peu plus profond que ça, finalement. C'est qu'à l'heure actuelle, le football, c'est surtout en France, c'est compliqué.
Tu veux dire que l'équipe de France, c'est une sorte de pavillon témoin de l'ennui du football français, c'est ça que tu veux dire?
Quand on regarde bien, est-ce qu'on n'a pas tué le football en arrêtant un peu, justement, d'avoir un milieu de terrain fort avec des gens un peu techniques, capables de faire de travailler, en fait, d'amener quelque chose de technique, d'amener une profondeur, d'amener du football? On se retrouve avec des joueurs, finalement, aujourd'hui, on n'a que des joueurs de rupture. Et là, on se retrouve, on regarde l'équipe de France, c'est ça qu'on a. On a des joueurs de rupture, mais sauf qu'à la fin, la finition n'est pas bonne. Moi, je vois un football stéréotypé toute l'année maintenant, en fait.
On voit tous ça.
On me dit sur Direct Studio, est-ce que les joueurs pourraient faire comme avec Corinne Diacre, c'est-à-dire un putsch? Je ne crois pas une seconde.
Ah ben non, ils ont la plupart, malheureusement, ils ne sont pas dans cet état d'esprit, parce que Deschamps, il a quand même gardé tous ces jeunes là qu'il a amenés, là, les plus récents. Parce que ce qu'il faut dire aussi, et malgré tout, et ça aurait été bien avec un autre sélectionneur, tout n'est pas acheté, loin de là. C'est ça qui est terrible, c'est que tu as Maignan, t'as Saliba, t'as Barcola.
Il y a toujours une base qui est pas mal.
Une base, et puis je dirais même un renouvellement lié au départ de Loris et de Varane notamment, qui ont permis quand même l'éclosion de sacrés joueurs.
Moi, je pose une question. Et lui, il n'a pas envie de faire autre chose dans sa vie? Il peut pas de lui-même dire c'est bon, j'ai assez fait, 12 ans, c'est super et tout.
Oui, mais après, demander à lui jusqu'à la Coupe du Monde 2026. Je suis d'accord.
Il peut faire autre chose aussi. Il n'y en a pas des sélectionneurs qui restent aussi longtemps. J'ai dit stop, quoi. Mets-toi sur le marché, trouve-toi un club. Bon, le problème, c'est que personne n'en voudra. Donc, peut-être qu'il ne veut pas être confronté à ça. Il ne veut pas être confronté à l'idée que personne ne voudra de lui dans un club.
Je crois qu'il ne veut pas, en plus, bosser au quotidien dans un club.
Ou plus.
Bah, moi, je ne sais pas. De lui-même, il pourrait dire stop, c'est bon, je me retire, c'était pas bien, les gens en ont un peu marre.
En fait, la vérité,
le jeu, ça fait chier tout le monde.
Tel qu'on le connaît, Daniel, plus on fait des émissions comme ça, plus il y a des rotaines sans flamme comme aujourd'hui et tout, et moins il partira.
Mais je suis désolé, il a pas. Ouais. D'où il privatise les bleus? À quel moment il a le droit comme ça de privatiser, de rester indéfiniment à la tête des bleus? Il est là. L'équipe de France, c'est un service public. Hein. On en a marre. Va-t'en, quoi.
Romain, tu veux rajouter un truc?
Si, je sais pas.
Ah bah, je voulais.
Pourrait faire une carrière au paddle. Il sait qu'il est bon au paddle.
Mais c'est clair qu'à un moment donné, on est en train de. Je pense qu'on est en train vraiment de tuer le football. On est vraiment. Ça devient n'importe quoi, en fait. Moi, je sais pas. Moi, j'ai appris le football avec justement des numéros 10, avec du jeu au milieu de terrain, des choses qu'on voit plus maintenant, en fait. Je suis assez triste du football que je vis maintenant. En fait.
Mais tu sais, le pire, c'est que si on entend aujourd'hui ce qu'on dit tous les gens qui étaient autour de la table de Jérôme, c'est que pendant un moment, malgré tout, il y avait une majorité parce que ces gens-là sont également sensibles aux critiques des gens du foot. Et si dans les autres pays, il y a des consultants qui disent plus que chez nous, globalement, nous, à part RMC, c'est un peu... Et c'était partagé. Là, ça l'est plus du tout. Là, il se retrouve face à Jérôme Rotten, qu'il a eu comme joueur.
Oui, je pense qu'il y a toujours
Duga, qu'il a eu comme...
C'est pas unanime dans tous les médias.
Honnêtement. Lisa, et pourtant c'est son ami et tout, mais je pense pas que, à part le côté humain, où c'est son ami, il le descendra pas, évidemment. Hein, mais sur le jeu, je suis sûr que Lisa est d'accord. Il peut pas ne pas être d'accord. Bon, alors, je vais pas... parlons de quelqu'un d'autre, peu importe. Mais tous, j'aimerais bien demander à Louis, qui l'a beaucoup défendu. Je suis sûr que c'est impossible. Ouais, là, maintenant, il doit dire c'est bon, on peut passer à autre chose.
Il connaît par cœur à tous les coups, évidemment.
Non, mais là, maintenant, il va dire stop. Mais là, on a entendu Manu, Jérôme, Duga, Eric, même s'il avait 2-3 bémols, mais malgré tout, je pense que lui aussi, il aimerait
Platini,
qu'on passe à autre chose.
Il doit être assez remonté.
Oui, Michel, il veut plus parler de tout ça. Ouais. Il s'en fout. Mais là, il va se retrouver même face à des anciens joueurs qui disent qu'il faut passer à autre chose.
Bon, j'aimerais passer maintenant à Mbappé, moi, parce que déjà je vous donne des infos.
Il sera... de voir si l'équipe va se prononcer clairement sur ce sujet.
Il sera à Madrid lundi, parce que mardi, il passera des examens, pour savoir s'il va se faire opérer ou pas du nez. Et puis mardi midi, grosse présentation de Mbappé à Madrid, comme ils savent le faire, avec stade plein, la totale.
Ils vont lui faire une visite médicale, genre grand format, pour étudier son état de forme, parce que ça va pas fort quand même. Hein.
Donc il sera.
Peut-être trouver d'où vient le problème, non?
Donc là, il est en vacances, hein, de fait, Mbappé, jusqu'à mardi prochain. Et après, il repart en vacances jusqu'au 6 août. Donc il va quand même pouvoir, là.
Il chez le docteur Fuentes.
Là, excuse-moi, ouais. Mais il va falloir qu'il prenne des vitamines, hein, parce que s'il repart en vacances,
Docteur Fuentes,
sachant l'année qu'il a passée, l'hygiène de vie qu'il a eue, s'il continue à partir en vacances, vu le train de vie qu'il a maintenant quand il joue pas au foot, parce que avant c'était gentil Kiki qui restait à la maison, qui regardait les matchs de foot, hein. Mais là maintenant c'est la vie de Neymar, hein. C'est les yachts, les fêtes.
Je pense pas qu'en arrivant au Real.
J'irai pas plus loin, mais bon. Hein,
Daniel, je pense que c'est peut-être la chance pour lui. D'ailleurs, on l'a dit hier, cette structure. Il arrive au Real, je pense pas que ce gars-là, qui est un gars intelligent, c'est la première chose qu'il a envie de se dire, c'est je vais m'en foutre plein la lampe, je vais bouffer, alors, je vais boire. Non, je pense pas.
Il y a
je
un
pense
sujet, on aura pas de soir, mais peut-être que demain soir, on le fera. Il faudra qu'on parle du désamour autour de Mbappé, qui est incroyable. Vous le constatez tous.
Oui, mais il l'aura bien cherché.
Et encore plus depuis hier soir.
Oui, mais il l'a bien cherché.
Et on en reparlera demain.
Alors, on en parle demain parce que demain on fera également le bilan sur sur cette année, sur son hygiène de vie qui est devenue absolument déplorable, sur certains tests médicaux qu'on a passé sous silence, sur ce qu'il fait en dehors de sa vie de footeux et sur l'âge qu'il a. Et à 25 ans, soit il prend le virage Neymar Verratti, soit, et Flo l'a dit, sa chance, c'est le Real. C'est la chance que Verratti a pas eu parce qu'il est resté au PSG dans un club pas géré. C'est la chance que Neymar a pas eu parce que lui, il est venu au PSG dans un club pas géré et il a fait la fête tout le temps. Mbappé, ça va peut-être se jouer à l'envers pour lui, en sa faveur. C'est qu'il quitte le PSG peut-être au bon moment. Parce que là, sinon, il est sur des rails qui sont des rails de je vais me blesser, je vais finir à la Eden Hazard au Real, hein.
Bon, ce sera demain soir. Gros dossier Mbappé demain soir.
Il n'y avait aucun sous-entendu sur les rails. Hein. C'était le train. Hein.
Oui, on a compris. T'avais interprété. Ouais.
Parce que j'ai fait une mauvaise vanne pour ça.
En revanche, il y a certaines pratiques du monde du foot aujourd'hui dont il faudra qu'on parle aussi. Des choses que prennent les footeux qui ne sont pas du tout bonnes pour la santé, hein, et dont on parle trop peu. Hein.
Quoi, le snus?
Oui, les fameux ballons, là. Ah, les fameux ballons, ça leur détruit la santé, ils ne s'en rendent pas compte.
Il y en a certains qui ont fait des comas, des footeux.
Bah écoute.
Il y en a en Ligue 1.
Voilà.
Dans un instant, le reste de l'actu du jour. Laurent Blanc va peut-être retrouver un club. Les droits de télé, tout ça jusqu'à minuit. Et puis,
je pratique rien de ce genre-là.
Le feuilleton Greenwood qui continue à Marseille, c'est tout de suite dans l'after.
RMC jusqu'à minuit 30. L'after foot, intégral euro.
Gilbert Bribois.
Encore 10 minutes d'after avant la libre antenne qui arrive tout à l'heure avec Thibaut Jean, Grand Oussem Moussaïef, Julien Cazard qui seront tous là. Daniel Riolo, Florent Gautreau pour l'instant dans l'after. Les gars, le feuilleton Greenwood continue. Hier, on a entendu le maire de Marseille, Benoît Payan, expliquer qu'il ne voulait pas de ce joueur donc vous le savez, enfin, je ne vais pas vous refaire l'histoire, mais a été poursuivi pour violence conjugale. Les charges ont ensuite été abandonnées, mais enfin bon, tout cela a été avéré et il est parti d'Angleterre à cause de ça pour jouer à Rétafé. Aujourd'hui, l'OM dit on compte tout de même recruter Greenwood malgré la prise de position du maire, et l'OM est agacé par la prise de position du maire. Voilà. Donc là, il y a un bras de fer qui semble
bras de fer, s'installer. C'est pas le maire qui dirige le club, hein, si les dirigeants du club veulent le prendre.
Mais sauf que le problème, c'est qu'à Marseille, il y a aussi beaucoup de supporters qui sont clairement contre la venue de Greenwood. Bah,
chacun s'exprime.
Sur les réseaux sociaux, ça commence à monter avec un hashtag « on veut pas de Greenwood à l'OM ». Donc c'est quand même très très chaud. Le club, en le prenant, ils vont se mettre dans les emmerdes, au-delà du cas éthique gérer.
C'est quoi le problème? C'est leur responsabilité. Moi, dans ces histoires-là, t'auras toujours des gens pour dire « Ah mais oui, mais l'autre, ah mais oui, mais tu te souviens quand machin ?» Moi, je me souviens du cas Boateng à Lyon, quand il est arrivé. Écoute, quand t'es dirigeant de club, tu fais un bilan. T'es là pour prendre les décisions de qui signe ou qui signe pas. Tu regardes le CV des mecs, à toi d'être libre, tu as le droit en tant que président de dire « j'ai plutôt envie d'avoir une équipe clean » ou « j'ai plutôt envie de dire, j'en sais rien moi, sur ce genre d'affaires-là, ça me plaît pas, si, sur une autre affaire, je veux bien passer l'éponge ». il est totalement le patron à l'OM, Longoria, et s'il estime que ça le dérange pas, eh ben, prends-le. Mais nous, on aura le droit de dire, ou en tout cas, moi, si j'étais président, ce genre de mec, je prends pas.
Comment
j'ai pas envie de prendre.
Comment est-ce qu'il comment ils insistent et comment ils pourraient le prendre? Imagine ce qui va se passer dans les tribunes sur le terrain. On connaît le pouvoir des supporters à Marseille. On sait qu'ils savent faire beaucoup de bruit. Le pauvre Greenwood, même, j'allais dire, je veux pas forcément le plaindre, mais enfin, il va être accueilli dans ce contexte-là. Imaginons qu'il soit pas bon. C'est problème pour lui. C'est que des problèmes.
Il devrait pas le faire.
Bah voilà, exactement. Bon, je comprends pas qu'ils insistent, en fait.
Ah, laisse-les insister, mais moi, je trouve que rien ne me dérange dans la prise de position du maire de Marseille. Et ensuite, pour ce qui est de l'attitude que doit avoir un président de club, il a le droit, même si là, il veut pas le faire, de dire, bah, moi, je prends pas un joueur parce qu'il a fait ça, ou je prends un joueur et ça me gêne pas qu'il ait fait ça.
Moi, ce qui me gêne dans ce dossier, c'est, encore une fois, sur le foot français, sur l'attitude des présidents, c'est que Longoria et l'OM, sur les fameux profils, quand on dit on fait l'entourage, on fait tout le reste pour des choses bien moins graves parfois, parce que le joueur est pas assez sérieux et tout, ça doit être un bloc immédiat. Longoria lui-même doit dire, attends, Greenwood, c'est le mec, tout le monde connaît l'histoire. Il doit dire, attends, non, laisse tomber.
On prend pas.
Tout simplement pour des raisons éthiques, parce que c'est, à mon avis, ce serait la base. C'est peut-être beaucoup demandé. Mais le foot français a déjà tellement de soucis, tellement de casseroles économiques et autres. On vient de parler du jeu de l'équipe de France. Et là, tu passes à un autre stade. Alors maintenant, nous, on est les seuls à aller récupérer les joueurs qui ont été traînés devant la justice, même si après, en l'occurrence, sa femme ou sa compagne a retiré sa plainte, ce qui fait qu'il a été, il a été laissé tranquille. Mais les faits ont existé. C'est incroyable que les dirigeants de clubs français aient quand même une propension comme ça à se foutre dans la merde et à ne pas respecter, on va dire, la moindre éthique. C'est ça qui est le plus étonnant. Que t'attendre que Benoît Payan prenne la parole pour que ça devienne un sujet et qu'éventuellement tu ne fasses pas signer Greenwood.
Avant qu'il prenne la parole, les supporters s'étaient emparés du
Oui, les supporters, mais les dirigeants eux-mêmes, c'est assez surprenant que Mehdi Benassia et Longoria se disent, ah, tiens, bonne idée. Et vu l'histoire qu'il a eue, bon, c'est pas grave, on va faire quand même.
Ce que je veux ajouter, c'est que moi, je ne me mêle même pas d'un éventuel jugement. J'ai pas à me mêler de savoir condamner, pas condamner, machin. Il a fait ce truc-là. Moi, je suis président de club, j'ai dit, écoute, un mec qui a fait ça, j'ai pas envie de l'avoir dans mon club. Parce qu'on me dit, ouais, mais les excuses, ça existe, la rédemption, tout. Mais évidemment que ça existe, il n'y a aucun problème. C'est juste que moi, dans mon équipe, même dans mes amis, j'aurais pas envie d'avoir un mec qui a mis 10 tartes dans la gueule de sa femme. C'est tout. J'ai pas envie. En tant que président de club, j'aimerais pas avoir un mec comme ça dans mon équipe. On a le droit de penser ça. Et par ailleurs, je demande pas à ce qu'il termine en prison. J'ai pas à me mêler de son jugement. La justice a fait ce qu'elle avait à faire. Je me mêle même pas de ça. J'ai juste pas envie. Mais c'est voilà. J'ai envie de savoir que les gars qui sont dans mon club soient des mecs clean le plus possible. Quoi.
Droit télé, l'épisode du jour concerne DAZN. DAZN qui insiste. Donc DAZN a offert 375 millions d'euros par an hein, pour 8 rencontres sur 9. Voilà, on parle même d'Amazon donc, pour la 9e.
Ils peuvent faire une rallonge s'ils prennent l'autre match.
Non, ils disent non, nous ça nous suffit, on veut 8 avec on vous donne
8,
ça.
8 bah alors si le 9e est vendu 100 millions, bah ça.
Et en fait DAZN ils disent bah attendez, arrêtez de penser qu'on n'est pas des gens fiables. Et donc aujourd'hui ils disent bah non, on est des mecs sérieux, nous on est le premier diffuseur du foot en Europe, dit DAZN, vous pouvez nous faire confiance. Donc là il y a une offensive un peu séduction de DAZN auprès du foot
sauf
français.
Sauf revirement, voilà. On en est à la solution de la chaîne parce que c'est très avancé dans les réflexions. Et c'est l'idée des penseurs de la Ligue. Après, si Nasser continue d'insister à mort en disant « ne le faites pas, ne le faites pas, ne le faites pas », vu le poids qu'il a, bah, ça peut ne pas se faire. Les présidents sont convaincus qu'au dernier moment, du bout, Bean va venir. Mais là, à l'heure actuelle, ce qui tient la corde de loin, c'est la solution chaîne interne.
À suivre. Il y a un épisode tous les jours, hein, donc on vous tiendra informé. Info du Parisien. Ce soir, Laurent Blanc a été approché par le club saoudien d'Al-Ittihad, le club de Benzema et d'N'Golo Kanté. Donc il pourrait retrouver un boulot en Arabie Saoudite.
Moi, je sais pas, je suis pas.
Dans un gros club, en plus, c'est un des gros clubs.
Ce qui compte, c'est surtout la qualité des greens.
Ah, je t'avoue.
T'as des infos là-dessus?
Bon, je pense que les greens doivent être arrosés.
Oui. A priori.
Quel que soit le réchauffement climatique, je pense que.
Ça doit être bien, ouais.
Ça doit être propre. Et Club Aou, tu sais, 18 trous, ça prend 4 heures. Hein. Tu peux faire l'entraînement après. Hein.
dans l'autre demi-journée. Il faut le caser dans l'emploi du temps. Hein.
Ouais.
Tu fais golf le matin, il faut y aller très tôt.
Tu mets l'entraînement à midi en pleine chaleur.
Tu peux pas mettre l'entraînement l'après-midi. Genre pour le planning golf
écoutez,
de
Ramblin, on met pas l'entraînement le matin parce que moi je joue au golf. Ouais, c'est vrai que c'est compliqué.
On a le gagnant de notre expérience RMC pour conclure, messieurs. Il s'appelle Sébastien. Il a été tiré au sort. Sébastien, bonsoir.
Oui, bonsoir Gilda. Bonsoir
Seb.
Bah écoute, donc tu as été tiré au sort. Tu gagnes le voyage en finale pour deux. Donc je sais pas avec qui tu vas y aller.
C'est incroyable. Ben, je vais le proposer à ma compagne qui dort.
Réveille-la, elle a réveillé. Parce que
dimanche, on va à Berlin, partez samedi.
Donc c'est dimanche. Si elle aime pas trop le foot, tu peux lui vendre Berlin. Hein, c'est
non,
sympa.
Ce que tu peux lui vendre, c'est samedi soir. Si vous partez vendredi après-midi, c'est la soirée de Julien Laurence sur le rooftop du Soho.
Ouais,
vendredi soir. Vendredi soir.
Vendredi. Non.
Partez vendredi après, vous faites. Sinon, il peut vous inviter à dîner samedi soir.
Ouais, on a son numéro.
Il a l'oseille, hein, Julien, il peut. Hein. Ouais. Franchement, le Soho, c'est un bel hôtel, ça, on mange bien.
Hein. Sébastien, supporter de quel club?
Du Racing.
Ah, voilà, c'est magnifique. Les supporters strasbourgeois sont là.
Du Racing, de
ah, ouais, j'étais parti au rugby.
Du Racing. Ah, de Strasbourg.
Il n'y a qu'un seul Racing, sache-le.
Excuse-moi de m'être égaré deux secondes.
Sébastien, bravo.
Merci beaucoup RMC. Le petit bonjour à mon cousin qui est à Montréal, qui nous écoute en ce moment. Voilà, je lui ai promis. Et puis, j'espère que je vous croiserai dimanche ou.
Ah non, on ne sera pas là, on sera ici dans notre studio.
Ah, dimanche, ah non, pendant que tu vas voir tes cousins.
On sera bien, aller à Berlin quand même voir la finale.
Bravo Sébastien, bonne finale.
Merci beaucoup.
Moi, c'est plus chez Julien Laurence que ça m'aurait intéressé à Berlin.
C'est vrai qu'on pourrait faire une déloque chez Julien Laurence.
Ouais, c'est ça.
Dans un instant, la Libre Antenne, profitez bien de la Libre Antenne, puisque c'est une des dernières d'Oussam Oussaïef.
Aïe, aïe, aïe.
Qui a décidé de voler de ses propres ailes.
De quitter
le nid.
C'est ça, Gilbert. En même temps, le nid, il commençait à peser trop lourd. C'est comme j'ai pris beaucoup de place. ça allait tomber à un moment donné, tu vois.
C'est pour ça que t'as mis une veste jaune de petit canard.
Exactement. Et ouais, non, il m'en reste deux. Il reste deux émissions, ce soir et dimanche.
Donc on se revoit dimanche.
On quitte jamais vraiment.
C'est dimanche qu'on pleure et qu'on te dit au revoir.
Ah ouais, tu vas chialer pour de vrai, on dit jamais au revoir à la famille de l'after, c'est pas possible.
Ah, méfie-toi parce qu'on dit au revoir, parfois on revient.
Pourquoi tu regardes Gilbert quand tu dis ça?
Bah non, il faut jamais insulter l'avenir. Hein,
Moi j'insulte même pas le passé, comment tu veux insulter l'avenir?
Bon, en tout cas c'était sympa, Oussam dans l'after, les gars.
Évidemment,
on a dit que c'était dimanche qu'on se disait au revoir. C'est pas ce soir.
D'accord.
Dimanche, on est là.
Dimanche, vous êtes tous là,
on est tous là.
Allez, on se revoit dimanche, de toute façon.
Voilà.
Ah non, il y aura bien Julien Cazard, et ça, c'est peut-être une bonne nouvelle aussi.
Alors, profitez bien de Julien aussi. Oui, voilà. Si vous voulez parler de Mbappé avec lui, c'est maintenant. Hein, il est impatient.
Julien ne travaillait pas les jours fériés, on le rappelle. C'est dans sa convention.
Oui, mais non, lui, normalement, c'est le 21 juillet.
C'est en Belgique.
La Belgique.
Ouais, mais il fait les deux. Ouais. France et Belgique, comme ça, il travaille moins.
Allez, la libre antenne tout de suite. Salut les gars. Demain soir, on sera là à 20h avec Génération After et à 22h avec l'After.
RMC, l'After Foot Intégral Euro.